I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode où on vous répond aujourd'hui, puisqu'on arrive entre le tiers et le quart de la saison NBA. On commence à voir se décider quelques tendances, à savoir quelles équipes, quel point de certaines de nos prédictions étaient bons ou pas d'ailleurs, et quelles équipes donc sont en bas de tableau. On avait parlé il y a deux semaines donc en parlant reconstruction. La semaine dernière, des équipes pour lesquelles ça se passe un peu mieux, on parlait outsider et contender, et donc cette semaine, c'est vous qui déterminez le sujet. Comme le veut la tradition donc des FAQ, on vous a demandé de nous poser des questions sur Twitter, sur YouTube également, des questions auxquelles on va vous répondre donc, avec tout d'abord celui qui les a minutieusement sélectionnées et qui me laisse la place de présentateur aujourd'hui pour reprendre le rythme du terrain du podcast, c'est Ben. Comment vas-tu, Ben ?
Ça va très bien. Tu m'as lancé en premier parce que tu parlais des prédictions bonnes et fausses, c'est pour ça ?
Non, c'est pour les questions, c'est pour les questions. Je plaide non coupable.
Très bien. Non, ça va très bien, Adrien. Et puis, oui, on aime bien faire ces petits épisodes foire aux questions. Donc, ça va très bien.
Et l'autre membre donc, du podcast qui vient répondre à vos questions, eh bien, c'est le membre le plus matinal de l'équipe, celui qui se lève avant donc, la fin des matchs de l'Est, parfois, pour des raisons de formation de prospects. C'est Tom. Comment tu vas, Tom ?
Ça va très bien Adrien, ça va très bien Ben.
Eh ben c'est parfait, messieurs, comme je l'ai dit, on ne va pas épiloguer très longtemps. Aujourd'hui, c'est un épisode FAQ, donc foire aux questions, comme le disait bien Ben. Épisode FAQ pour Dunk Hebdo, donc on marque notre pause traditionnelle et on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Alors, on entre directement dans le vif du sujet, pas besoin d'introduction. Vous nous avez posé des questions et on va commencer avec la Conférence Ouest aujourd'hui. Une question qui nous était posée par Jate M. Alors là, c'est l'exercice du jour pour moi, c'est prononcer les pseudonymes. Donc Jate M qui nous demande qu'est-ce qui manque au Jazz pour passer un cap. Et il cite un peu comme les Bucks donc, qui ont terminé deux années de suite premier de la Ligue. L'année d'après, où ils ne sont pas premiers, il y a eu un déclic, notamment un déclic de Giannis quand on voit son Game 6. Voilà la question en entier. Alors qu'est-ce qu'il faut, messieurs, pour les Jazz pour passer un cap ? Tom, tiens, vas-y.
Je dirais plusieurs choses. Après, le Jazz, c'est une équipe qui, quand tu regardes la façon dont l'équipe est constituée, ne manque pas de grand-chose. Et surtout quand tu vois aussi les résultats qu'ils arrivent à avoir en saison régulière. Après, c'est une équipe voilà qui, en play-off, a quelques problèmes d'adaptabilité et qui a un petit peu difficilement à garder un très, très haut niveau quand on la force à sortir de sa zone de confort. Alors moi, ce que je me suis noté en fait pour eux, ça va être par exemple des extérieurs qui sont capables de défendre sur le périmètre. On l'a vu dans la série face aux Clippers. Ok, Rudy Gobert entre guillemets est le joueur qui est le plus vu comme étant en difficulté, mais c'est surtout en fait le fait qu'ils étaient incapables de défendre les joueurs sur le périmètre qui forçait Rudy Gobert à les aider et son joueur sanctionnait ensuite l'équipe. Autre chose qui pourrait être intéressant, c'est que le Jazz soit capable soit d'attaquer, soit de défendre, ou les deux, sans Rudy Gobert sur le terrain. Comme ça, ça peut leur donner des options supplémentaires. Et non, je ne crois pas au fait que Rudy Gay, le mettre au poste 5 à la place de Rudy Gobert, soit une bonne chose, parce que remplacer ton meilleur joueur, ou voire deuxième meilleur joueur, par un joueur qui est peut-être ton huitième meilleur joueur, ça va pas donner une bonne recette. Et puis, dernière chose, je pense qu'il y a quelque chose à voir au niveau de Rudy Gobert offensivement, qui soit capable en fait d'être plus agressif et être capable de profiter et d'abuser un mismatch offensivement.
Est-ce qu'on est d'accord, Ben, ou finalement, en fait, la question, elle se passe plus au sein de cet effectif-là. Là, on ne parle pas spécialement de rajouter une pièce, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette façon de jouer autour de Rudy Gobert notamment, mais Donovan Mitchell, qui sont les deux têtes d'affiche.
C'est ça, Rudy Gobert a eu une sortie un peu musclée il y a quelques jours. Il expliquait voilà, quand est-ce qu'on va retenir le leçon de ce qui s'est passé pour nous. Et je pense qu'il y a un peu de ça vis-à-vis du Jazz. Il y a eu un article de The Ringer d'un journaliste assez connu, de Jonathan Sharks, qui implorait le Jazz de donner le ballon à Donovan Mitchell. Et moi, il y a un terme, une expression que j'ai bien aimé dans cet article. Il a parlé d'attaque démocratique. Ça veut rien dire, c'est normal, mais l'idée, oui. L'idée est assez intéressante, je trouve. Moi, le Jazz, on avait fait un épisode sur eux, je crois, il y a un peu moins d'un an. J'ai toujours le même problème avec cette équipe, c'est sa capacité, Tom l'a un peu dit, à évoluer dans le chaos, en fait. C'est-à-dire, une fois que tous les éléments de la mécanique bien huilée du Jazz commencent un peu à avoir du mal à tourner, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve en cela que peut-être, comme il le propose, donner plus la balle à Donovan Mitchell sans tomber dans un héliocentrisme, mais en tout cas lui donner plus de responsabilités, ça pourrait être une solution. Parce qu'on l'a vu souvent, quand la mécanique commence à avoir du mal du côté du Jazz, on va se retrouver dans de l'iso Mitchell à outrance. Et on voit bien qu'en fait, c'est des situations qui n'ont pas travaillé. Donc, travailler en fait plus de situations où ce n'est pas... parce que oui, en termes d'efficacité, c'est diabolique, ce que propose le Jazz offensivement, mais gagner de manière différente. On y reviendra, mais les équipes, les contenders dont on va parler aujourd'hui, je trouve, sont tous capables de gagner de plusieurs manières. Je trouve que le Jazz est trop scolaire, en fait, toujours.
Ouais, c'est ce que j'avais noté aussi, c'est la question dont tu l'as dit, on l'avait évoqué, on avait parlé du Jazz il n'y a pas si longtemps dans le podcast, qui est considéré comme une équipe de saison régulière. Quel est le problème finalement aux équipes de saison régulière? Et c'est ce que tu viens de pointer, c'est la répétition des situations habituelles. C'est-à-dire qu'en saison régulière, la machine est huilée, tout va bien, ils gagnent, ils savent où ils vont. Le problème, c'est qu'une fois arrivé en play-off où tu vas te retrouver dans des situations plus particulières, ils n'ont pas ces répétitions justement de situations où ils vont être un peu contrés sur leur système de jeu, parce qu'il y a eu la vidéo, parce que tu fais plusieurs matchs à la suite. Donc peut-être que c'est ça, se donner les moyens de voir plus de possession entre guillemets chaotique au sein des matchs de saison régulière pour arriver un peu mieux préparé en play-off. Mais voilà, pour le reste, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas paraphraser, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est le Jazz qui doit trouver ses solutions en interne pour essayer de passer un cap, mais quel cap? Qui est juste celui de devenir un tout petit peu plus fort pour arriver au bout.
Ouais, c'est ça, passer plus de tours en play-off surtout, passer plus de tours en play-off et être capable de gagner quand c'est David. Être capable de gagner quand c'est David. Après, je pense qu'il gagnerait de s'inspirer de ce qu'a fait peut-être Toronto. On se souvient Toronto quand il gagne le titre. Alors oui, on peut parler d'un autre effectif, mais t'avais un jeu avec Kawhi et un jeu sans Kawhi. Et là, c'est une équipe qui doit avoir, par exemple, un jeu avec Donovan Mitchell entre guillemets, où c'est Donovan Mitchell qui porte tout, et le jeu collectif à côté où il est incorporé. Mais il faut qu'ils soient capables en fait de pouvoir switcher de ces modes-là et d'arriver à ne pas en fait perdre le rythme d'un des deux modes quand il joue l'un des deux.
Quand tu passes de l'un à l'autre. Et est-ce que sinon, voilà, question un peu provoque, Ben, est-ce que sinon le salut du Jazz, ça passe pas par justement, on voit cette conférence Ouest peut-être un peu moins forte que ce qu'elle a été par le passé. Est-ce que justement la stabilité du Jazz peut pas être leur force cette année à ce niveau-là?
Stabilité et une force, le fait aussi de oui, la stabilité qui amène pas de questions, parce qu'il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest sur lesquelles il y a des questions. Je trouve aussi que un des défauts du Jazz, c'est le défaut d'être bon. Ils n'ont pas beaucoup de matchs serrés, en fait. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, les mises en situation, ils ne les ont pas non plus en saison régulière. Donc, ils peuvent profiter d'une conférence Ouest. On y reviendra un peu plus tard. Je l'expliquerai de manière plus précise, mais je pense qu'en fait, à l'Ouest et à l'Est, cette année, on a trois équipes qui se détachent, mais c'est un peu nébuleux au niveau de la hiérarchie. Et oui, ils peuvent en profiter. Après, pour ce Jazz-là, il faut aussi apprendre à gagner les séries où ils sont pas ultra favoris en arrivant. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème à gagner. Ils gagnent les séries, ils sont ultra favoris. Mais alors, dès qu'il y a un semblant de doute sur le résultat, tu as l'impression qu'ils perdent les séries. Et ça, c'est problématique. Je pense qu'ils seront pris au sérieux le jour où ils gagneront une série dans laquelle ils sont pas ultra favoris en entamant le match 1.
Où il n'y aura pas le meilleur... ils n'auront pas le meilleur joueur sur le terrain, par exemple.
Et donc, il y a un espèce de cap mental aussi, tout autant que terrain, on va dire. Bon, je pense qu'on a bien répondu au niveau du Jazz. Il y a beaucoup de questions, alors il va falloir qu'on avance un petit peu tout de même. Et on va parler d'une autre équipe qui vise le titre cette année, avec Guillaume, qui nous pose une question. Quelle pièce manque-t-il aux Suns pour aller jusqu'au titre, selon vous? Alors, il parle de la trade deadline, des buyouts possibles. Je le cite encore, le roster est solide, mais j'ai le sentiment que des petits ajustements pourraient faire la différence et les emmener au bout. Est-ce qu'on a envie de faire un changement cette fois, Ben? Je te lance toi en premier.
Tom et moi, on ne s'est pas parlé, mais sur la conversation WhatsApp de Dunk Hebdo, on est arrivé à la même conclusion. Je pense qu'on se pose cette question parce que les Suns n'ont pas un des joueurs du top 11. Pour ceux qui ont écouté notre DH20, on avait isolé 11 joueurs qui étaient un peu au-dessus de la mêlée et on avait sous-entendu que le titre se joue souvent parmi les équipes qui comptent ces joueurs-là. Parce que quand je commence à faire la liste de ce qu'il faut pour être titrable en NBA, les Suns ont tout. Profondeur, ils ont la profondeur. Défense, ils l'ont. On parle souvent, quand on écoute nos épisodes de finale NBA et de playoff, des passeurs. Ils ont les passeurs. Ensuite, moi, il y a une catégorie que j'ai appelée un peu métamorphose. Ils savent gagner de manière différente. Ce que j'ai dit que le Jazz ne savait pas faire, ils l'ont montré sur leur ancien run. Ils ont un long run l'année dernière où ils passent quand même tout près du titre NBA, si on veut. Donc, en fait, pour moi, ils sont... Je vous l'ai dit en off, mais la cote des Suns, elle est à 12 plus 1200 à Vegas. Je comprends pas comment ils peuvent être encore 5 ou 6e pour le titre. Ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être que oui, du coup, mentalement, vu qu'ils n'ont pas ce top 11, on aura du mal à les placer dans les ultra-favoris, mais ils ont tout ce qu'ils font. Enfin, c'est peut-être la meilleure équipe NBA. Quand on enregistre le 5 décembre, c'est sûrement la meilleure équipe NBA.
Ah, du coup, je twiste un peu la question. Pour toi, Tom, est-ce qu'il manque vraiment une pièce aux Suns pour aller au bout?
Je pense plus qu'il leur manque un peu plus de variance. En termes de pièces, oui, tu peux toujours pointer quelques éléments du doigt. Par exemple, un joueur type un peu small ball 5, tu vois, qu'ils avaient un peu avec Dario Saric, même si pour moi Ayton fait très bien le job. Et enfin, par exemple, il te faudrait, enfin, certains fans des Suns en parlent pas mal et ça sort aussi dans la presse pro Suns, un joueur comme un peu Thaddeus Young par exemple. Ils ont pas vraiment ce joueur un peu small ball 5 vite qui permettrait de jouer petit entre guillemets, tu vois. Peut-être un ailier encore supplémentaire, mais quand tu regardes leurs trois principaux ailiers entre Mikal Bridges, Jay Crowder et Cam Johnson, enfin c'est dur de trouver un upgrade à ces postes-là avec ce qu'ils ont en magasin et vu ce qu'il y a sur le marché, tu vois. Donc, enfin après c'est encore une fois, je pense que le facteur principal ce sera la santé, la chance. Et est-ce que, par exemple, on sait ce que, enfin pour moi, hein, ce qui fait vraiment la différence entre les stars et les superstars, c'est à quel point tu es capable d'atteindre ton pic à des moments où c'est important ou c'est difficile. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Devin Booker sur 7 matchs peut atteindre son pic 6 ou 7 matchs, quoi, tu vois. Je pense que c'est là où ça va se jouer la bascule, mais en termes de construction d'effectifs, ils sont bons partout.
Ouais.
Bon partout.
Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que Thaddeus Young, ce serait pratiquement parfait. C'est un nom qui circule un peu partout parce que c'est un bon joueur et qu'il joue pas aux Spurs. Mais après, je suis d'accord, au sein de l'effectif, tout le monde a progressé. Comme tu l'as dit, Ben, ils sont peut-être la meilleure équipe NBA actuelle. Ils ont emmagasiné de l'expérience. Leurs jeunes joueurs, leurs ailiers, principalement Tom, les Bridges et Cam Johnson, ont nettement progressé. Bon, maintenant, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Tom, la chance. La chance, la santé, il faut aller au bout. On rejoint un peu ce qu'on disait au Jazz, sauf que peut-être que les Suns ont une petite marge d'avance parce que l'année dernière ils étaient en finale parce qu'ils semblent meilleurs plus et mentalement plus préparés aussi parce qu'ils ont vu différentes situations déjà l'année dernière. Donc a priori voilà, maintenant il faut convertir l'essai quoi finalement.
C'est ça. Moi je l'ai déjà dit mais je fais plus confiance à cette équipe là qu'à celle du Jazz moi personnellement.
Ce qui se comprend. Le côté polymorphe comme tu l'as dit, ils sont capables de gagner de plusieurs façons, ils sont capables de jouer de plusieurs façons, ils sont capables d'être efficaces contre plusieurs types d'attaques, contre plusieurs types de défenses. Donc,
Et puis si tu veux une pièce, c'est toujours ça, quelle pièce il manque, généralement, il faut en lâcher en face. Et est-ce que tu as vraiment envie de lâcher certains joueurs de cet effectif qui est finalement plutôt bien équilibré? Tu as 10 joueurs qui jouent. 10 C'est pas donné, donc est-ce que vraiment le risque d'aller chercher un trade en vaut la chandelle? Je suis pas certain.
Leur troisième meneur était titulaire d'une équipe qui allait en playoff l'an dernier. On ne va pas le nommer.
Bien sûr, tout à fait. Un ancien projet capillaire de haut niveau. Et bien, continuons à l'ouest avec une autre équipe qui, avant le début de saison, était peut-être dans ce groupe-là. Les contenders outsiders de l'ouest, qui sont les Denver Nuggets. Et c'est une question une nouvelle fois de Guillaume. Qui le dit lui-même. Donc Denver m'intéresse, une franchise qui est stoppée en pleine ascension, voilà, comme je le disais. Comment on fait du côté des Nuggets pour gérer le dossier MPJ, Michael Porter Jr. pour continuer donc à rêver de titres autour des deux pièces principales qui sont Jokic et Murray, sachant, je le cite, que le nouveau contrat de MPJ commence l'année prochaine. Problème de cap à prévoir. Comment rester compétitif si Michael Porter ne revient pas? Qu'est-ce qu'on fait après toutes ces difficultés du côté Denver, Tom?
Je pense que si Michael Porter Jr. ne revient pas, l'équipe sera quand même compétitive puisqu'ils ont Nikola Jokic et Jamal Murray. Ils ont pas mal de bons roleplayers autour. Hein, faut pas oublier tous les soldats qu'il y a autour. Alors peut-être que pour le titre, Michael Porter Jr., c'est lui, entre guillemets, qui peut faire la bascule entre ton statut de prétendant ou de contender, voire de favori. Par exemple, l'an dernier, s'ils étaient restés en santé, pour moi, c'est une équipe qui avait les moyens de faire ce que les Suns ont fait. Pour moi, c'était vraiment une équipe hyper complète. Après, c'est une équipe qui est encore très jeune. Hein, quand tu regardes l'âge du noyau dur, enfin, Alan aime bien parler de le titre NBA, ce sont les superstars en troisième contrat. Il y a personne qui, enfin, quand tu regardes des joueurs majeurs, Jokic n'est pas encore sur son troisième contrat, MPJ n'est pas encore sur son deuxième contrat, et Jamal Murray vient tout juste de commencer son deuxième contrat. Donc, c'est vrai, on peut se dire que les fenêtres de tir se referment très vite à NBA, parce que si ça se trouve, ils auront plus, enfin, quand tu regardes la santé de tout un chacun, limite, la bulle, c'était peut-être la seule chance qu'ils auront, donc ils peuvent être déçus, mais je trouve que c'est une équipe qui doit être patiente et qui doit pas ils ont pris énormément de temps pour assembler cet effectif là la blessure de Porter Jr. pour moi doit pas totalement bouleverser les plans, et ce serait pas un bon move d'essayer de transférer Porter aujourd'hui, par exemple.
Ouais, pas besoin de paniquer non plus. C'est vrai que la fenêtre de la bulle était intéressante, mais elle arrivait peut-être un peu tôt, justement comme tu le disais, par rapport au niveau de ces deux joueurs majeurs et du troisième qui est censé être Porter Jr. Comment tu le vois, toi, Ben? Pareil, on ne panique pas du côté d'Enver?
De toute façon, si on panique, on fait quoi? Enfin, Porter Junior, troisième opération du dos depuis qu'il a 18 ans, avec le gros contrat qu'il vient de signer, sa valeur, elle sera plus basse que jamais, et on va y revenir pour un autre joueur plus tard. C'est pas une bonne idée d'échanger le joueur quand il a une si petite valeur. Non, du côté d'Enver, il faut se souvenir que avant l'explosion de Michael Porter Jr., on pensait déjà que c'était une équipe entre guillemets du futur avec Jokic Murray. T'as un joueur, t'as un MVP, t'as un des fameux joueurs du top 11, t'as un joueur qui selon nous peut être dans le top 20 suite à sa bulle, ça te donne déjà une bonne fondation. Le seul souci que ça pose, je vous en parlais avant de commencer à enregistrer, c'est que ça te limite considérablement tes marges de manœuvre parce que t'as 90 gros millions sur trois joueurs, ce qui fait que ensuite il faut réussir à jongler pour trouver un maximum de plus-value sur le reste, sachant qu'en plus un des trois joueurs, Michael Porter Jr., il y a quand même un doute qui peut se poser sur sa durabilité avec la troisième opération. Donc non, c'est pas le moment de paniquer, on ne tanque pas, on ne fait pas des choses comme ça, et on de toute façon, on le dit souvent ici, Nikola Jokic c'est un des meilleurs joueurs pour une équipe en saison régulière, donc continue de jouer. Voilà, enfin, c'est super embêtant à long terme. Parce que tu peux te penser ce qui va se passer à long terme pour Porter Junior, mais à court terme, tu dois continuer avec l'effectif tel qu'il est.
Oui, embêtant à long terme et à très court terme aussi. C'est vrai que moi, je me mets à la place des supporters Nuggets et des joueurs aussi, hein, finalement. T'as un peu l'impression de faire une année dans le vent. Parce que les joueurs où t'as envie qu'ils emmagasinent de l'expérience sont tes deux joueurs blessés.
Donc, à 100% pour toi, ils sont dans le groupe des deux équipes dont on a parlé avant?
J'ai du mal, on en avait déjà parlé, mais moi j'ai du mal à voir les Nuggets moins forts que le Jazz. Bien moins forts que
en
le
santé,
Jazz.
En santé.
Oui, bien sûr, en santé.
Oui, en santé, oui.
En santé totale, donc avec notamment Jokic Murray. Après Michael Porter, on est encore au début de sa progression, c'est aussi ça qui est embêtant à long terme, comme tu le disais. Mm-hmm. On est quand même au moment où il y avait des doutes au tout début de sa draft, c'est pour ça qu'il est descendu d'ailleurs jusque-là, qu'ils ont réussi à le récupérer. Il y a des défauts dans son jeu aussi, c'est évident, mais petit à petit, on commençait à le voir arriver au niveau espéré, en tout cas au terme de scoring. Et c'est à ce moment-là qu'on a envie qu'il emmagasine justement les expériences, les différentes situations. Là même, justement, sans Murray, ça pouvait lui permettre de se retrouver face à des moments où peut-être qu'il aurait dû avoir ce niveau-là plus tard sur des rotations sans Murray, etc. C'était très intéressant. Donc c'est embêtant pour lui et pour eux aussi sur le long terme. Après, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
T'as pas de tu reconstruis pas quand t'as un MVP dans son prime.
Ça a pas de sens.
Et ben en parlant de MVP, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Tom.
Non.
Bon. En parlant de MVP, ça me fait une belle transition. C'est pour ça que je m'en sers pour la question suivante de Da Lion King, qui nous emmène du côté de Los Angeles, et je le cite sans spoiler, « Comment expliquer le gap entre les statistiques de Westbrook comparé aux critiques qu'il subit donc constamment ? Ne pensez-vous pas qu'on tape trop sur lui, un peu à tort, dans le mauvais jeu des Lakers ?» Bon, qu'est-ce qu'on en dit de Russell Westbrook ?
Bah, c'est toi qui vas répondre, Adrien. Je laisserai juste pour Dalion King, qui fait partie des gens qui nous ont partagé sur Twitter Spotify Rap de l'année. On était premier chez pas mal de gens, donc merci beaucoup.
Et merci à vous.
Et je laisse Adrien répondre parce que c'est une question sur Westbrook, bien évidemment.
Alors j'avais un peu envie d'y croire. En début de saison, je me suis forcé à être un peu l'avocat du cas Westbrook, et c'est vrai qu'il y a quelque chose à garder en tête. C'est Tom qui nous le rappelle régulièrement, c'est que ça fait quelques saisons que Westbrook commence, disons
horriblement.
Je voulais être plus sympa, mais allons-y, horriblement ces saisons, et finit plutôt beaucoup mieux et on retrouve la hype de Westbrook à chaque fois. Donc le bénéfice du doute est encore permis. Après, la différence entre les statistiques brutes en fait de Westbrook, elle est là la différence. C'est que les statistiques brutes de Westbrook sont hyper impressionnantes. On sait qu'on aime dans les observateurs NBA le triple double, qui est une stat totalement aléatoire. On a décidé que 10-10-10, c'était une super stat.
C'était bien.
Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'il est incroyable à ce niveau-là. Après, les critiques qui lui sont faites, elles sont plus dans le jeu, au niveau de l'efficacité des statistiques qu'il peut créer. Il y a sa gestion des clutches qui est toujours remise en jeu, et le principal pour les Lakers, mais on en a souvent parlé et la question se pose toujours, c'est cette histoire de fit et donc de tout ce que tu as dû lâcher pour récupérer Russell Westbrook. Et pour le moment, tu vois pas bien comment ça fonctionne, mais effectivement il n'est pas le seul coupable, puisque c'est pas lui qui a décidé de faire ce trade et de sacrifier toute la défense des Lakers, parce que là le grand problème, la défense et le shoot des Lakers sont tous disparus. Est-ce que Russell Westbrook a le niveau pour compenser tout ça actuellement? Il est peut-être là le problème, il ne l'a plus, même s'il reste un très fort joueur quand même.
Après, Westbrook, c'est un joueur clivant. Hein. C'est un joueur clivant pour moi, trois choses. La première chose, c'est que c'est un joueur de volume. Et quand tu fais du volume, ben, tu as tendance à avoir pas mal de déchets, hormis pour l'élite. C'est un joueur qui, pour le deuxième point, qui, quand il rate des choses, sont très visibles. Moi, j'appelle ça un peu le théorème Paul Pogba. Il fait des choses, il tente des choses qui sont tellement compliquées que quand il rate, c'est hyper visible, tu vois. Une brique, un shoot ouvert raté, un gumball pour aller chercher une interception qui ramène... C'est plus visible que le mec qui se mange un écran non porteur et n'arrive pas à suivre son joueur dans le coin, tu vois. Les pertes de balles, c'est très visible. Donc, Russell Westbrook, il fait énormément de choses qui sont très visibles, des choses qui peuvent avoir un impact négatif, qui sont très visibles. Après, c'est un joueur aussi qui est un peu dans la cible, dans l'œil entre guillemets des médias, puisque c'est pas quelqu'un qui est forcément aimé par les médias, c'est pas quelqu'un qui aime pas mal les médias. C'est quelqu'un qui est plutôt, je vais pas dire détesté, mais que on lui donne rarement le bénéfice du doute parce que c'est pas quelqu'un qui est forcément très bienveillant avec les médias. Donc, je pense que tout ça cristallise. Et puis voilà, c'est un joueur clivant et on va pas, les fans des Lakers, ils vont pas taper sur LeBron le sauveur et LeBron James et Anthony Davis. Ils vont pas taper sur ces mecs-là. Ils vont taper sur le mec qui a déjà dans son historique des choses qu'il fait très bien, des choses qu'il fait mal et qui n'évoluent pas.
Et puis dans le côté clivant, il y a aussi un truc, c'est que Westbrook, il a, comme tu l'as dit, il est très clivant dans le sens où ses critiques vont être très très fortes, mais aussi les fans, les gens qui adorent Westbrook l'adorent très
Merci.
Très fort.
Oui.
Et donc c'est peut-être ça qui crée cette impression, Ben, du coup.
C'est ça, tu cliffes pas si tout le monde te déteste, en fait, t'es juste détesté. Tu cliffes s'il y a une partie des gens qui compensent et qui t'adorent, vraiment. Ouais. Quand j'ai vu cette question, moi j'ai mis, c'est l'éternel débat Westbrook un peu, c'est à quel point l'échec d'une équipe est la responsabilité de Westbrook. Tom l'a dit, c'est un joueur qui prend de la place. Après, là où on peut un peu le dédouaner, c'est que faut se souvenir de l'alternative à ce trade-là, c'était un peu un package avec Sacramento, avec Buddy Hield, et tu vois qu'en fait, c'est pas du tout pareil en fait. L'idée, elle est totalement différente. Il y a eu cette association de stars qui nous a paru dès le début un peu compliquée, et on peut pas lui en vouloir si ramener Westbrook en lui disant quand LeBron aura le ballon sur du pick and roll avec AD, tu vas attendre dans le corner. Non en fait. De base, c'est même pas la faute de Westbrook parce que c'est pas ce joueur-là. Donc, est-ce qu'il prend cher? J'ai l'impression que Westbrook, c'est tellement difficile d'avoir de la nuance vis-à-vis de ce joueur. C'est, oui, il a une responsabilité dans le mauvais jeu parce que il en est, c'est un joueur qui prend de la place et qui, oui, n'arrive pas à adapter son jeu. Mais je pense que c'était illusoire de croire que Westbrook allait adapter son jeu à ce moment-là de sa carrière.
Voilà, si on connaissait Westbrook, donc après, le casting a été fait par le front office des Lakers. Westbrook fait du Westbrook. Tu prends, tu compenses ou pas, le fit est bon ou pas, mais il n'y a pas de surprise à avoir spécialement actuellement. Il n'est pas plus mauvais. Alors, bon, il y a des passages, on est en début de saison, comme on disait, etc. Il n'est pas plus mauvais que ce qu'on pouvait penser a priori.
Après, tu vois, c'est un joueur de joueur, Westbrook. C'est un joueur de joueur. Je pense que les joueurs qui jouent avec lui l'adorent.
Parce moi, fait, ça m'étonne
c'est un
toujours
gars qui
un
se
peu.
Cache mais... pas. Hmm ben, en fait, c'est un gars qui se cache pas. C'est-à-dire que t'as toujours des mecs qui veulent rester entre guillemets propres et qui vont pas oser prendre les chutes. Après, c'est vrai que Westbrook, il a un intellect basket qui est parfois un peu bizarre. Tu vois, par exemple, un truc tout con. C'est un gars qui, quand par exemple, il va voir qu'il y a par exemple un mismatch sur le panier, par exemple avec Anthony Davis. Anthony Davis à la position préférentielle. Plutôt que servir Anthony Davis pour qu'il joue un post-up, il va essayer, il va prendre un shoot difficile en se disant que Anthony Davis a l'avantage de taille sur l'autre mec, donc au pire, il aura le rôle. Non, mais Westbrook fait parfois des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il shoot parfois parce qu'il voit qu'il y a une proposition préférentielle au rebond, et plutôt que faire la passe, il a un intellect bizarre parfois, Westbrook.
Je dors, moi, c'est ça. D'un point de vue joueur, ouais, mais d'un point de vue joueur, ça peut aussi être frustrant. C'est bien, c'est un mec sur lequel tu sais que tu peux compter, etc., ce que je comprends. Mais ceci très frustrant quand justement tu es à la place du gars qui a le mismatch ou du mec qui aimerait avoir certains tirs, plus de balles, etc. De voir un mec qui la monopolise dans les soirs où il n'est pas dedans, c'est hyper frustrant de jouer avec ce type de joueur.
Je pense que c'est parce que aussi sur les dernières années, si j'exclus le poste Kevin Durant à OKC et peut-être si j'exclus la période Harden, il était avec des joueurs où en fait il y avait un écart pas possible entre lui et les meilleurs joueurs. C'est à part bon, il y avait peut-être un Bradley Beal du côté des Wizards et tout, mais ça en fait du coup, je pense que d'un point de vue joueur, tu te dis bon bah il est plus fort que nous, il prend ses responsabilités. Et si t'es dans une logique où tu, comme l'a dit Tom, tu veux un peu te cacher parce que il y a un paquet de joueurs NBA qui se cachent, hein, soyons honnêtes, pour garder le 3 sur 4 à 3 points hein, et pas avoir 3 sur 5. Il y a un paquet de joueurs qui se cachent. Eh bien, Westbrook, en cela, tu dis, lui, faire 3 sur 14,
il s'en fiche. Ouais.
Donc, du coup, ça, mais oui, je comprends que si dans une approche un peu à plus bas niveau, Adrien, ça peut être frustrant. Hein.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du cas Westbrook. On a rappelé pourquoi il est clivant finalement, mais on lui laisse le bénéfice du doute pour la suite de la saison. On l'espère pour les Lakers quand même, parce que pour l'instant, ils sont quand même relativement dans le dur. Et on va parler d'une autre équipe relativement clivante, on va dire, puisqu'on va aller du côté du Minnesota pour la prochaine question. Et effectivement, vous entendez Tom rire parce qu'on a Ben qui est un grand fan des Wolves et qui leur a donné un petit surnom que je ne vais pas dévoiler. La question suivante, elle est signée de l'Observateur qui nous demande: est-ce que les Wolves vont créer la surprise cette saison? Ben, je t'en prie.
Ah, c'est la réponse du berger à la bergère hein, pour Westbrook. Ok. Bon, je me suis moqué de vous parce que toi, Adrien et Tom, vous avez un peu hypé les Wolves et quand ils ont eu leur série de défaites, ok, tous les matins, j'envoyais un rappel du bilan des Wolves. Je suis un gamin, je sais. Alors, je pense que est-ce qu'ils vont créer la surprise? Réponse facile, je vous réponds le 25 décembre parce que leurs prochaines semaines sont assez difficiles. Et est-ce que je crois honnêtement que les Wolves ont une des 10 meilleures défenses de la NBA? J'ai quand même du mal à l'intégrer. Alors, ce qu'ils ont fait, je vais parler du match contre les Nets. J'allais dire New Jersey Nets parce qu'en plus, ils avaient le même habit que les
Nets,
le maillot rétro. Je trouve ça, c'est un des matchs les plus encourageants que j'ai vu ces dernières années des Wolves. C'est-à-dire qu'ils sont dans le match sans Karl Anthony Towns qui est malade et ce qu'ils proposent, c'est extrêmement cohérent. On a une question sur Anthony Edwards. Il continue à progresser de manière assez rapide. Alors, ça reste un gros scoreur et il y a certains éléments du jeu qui sont pas encore là, mais bon, il a même pas 100 matchs, donc on va attendre. Ils vont profiter. On parlait du niveau de l'Ouest homogène avec certaines équipes très en difficulté ou en tout cas décevante. Je pense qu'ils peuvent en profiter. Après, créer la surprise, c'est quoi? Si c'est les voir batailler pour le play-in, je pense qu'ils peuvent le faire. Si c'est les voir accéder au play-off sans le play-in, j'y crois pas. Mais oui, ils sont cohérents. Après, c'est les Wolves, les gars. J'ai trop peur de dire des choses positives sur eux parce que ils sont inconstants, mais c'est cohérent, en fait. Je vais leur accorder le bénéfice du doute, c'est cohérent.
L'équipe sinusoïdale, qu'est-ce qu'on en pense? Donc, Tom, toi, qu'est-ce que c'est finalement? Ben a bien résumé la question. Qu'est-ce que c'est créer la surprise pour les Wolves? Est-ce que c'est faire les play-in et est-ce qu'ils en sont capables du coup?
Pour moi, créer la surprise, ce serait être sixième.
Donc les play-offs sont play-in.
La surprise. C'est les play-offs sont play-in. Pour moi, ce serait la surprise parce que quand tu regardes l'état de l'Ouest, ce serait pas surprenant même en début de saison hein, que, enfin, pas mal de personnes les avaient en play-in, tu vois, enfin, dans enfin, à la place des Spurs par exemple l'an dernier. Pas mal de personnes les avaient genre à la 10e place, juste comme ça, ou les Pelicans par exemple. Mais enfin, moi je trouve que enfin c'est assez, comment dire, c'est assez bizarre en fait de voir que Minnesota c'est une bonne équipe défensive quand tu connais l'historique et quand tu vois le personnel. Mais en fait, quand tu les regardes, tu te dis que ça fait sens. En fait, ils jouent comme une bonne équipe défensive. Ils jouent vraiment comme une bonne équipe défensive. Même, enfin, j'étais très agréablement surpris même par D'Angelo Russell qui était effroyable. Défensivement, il était effroyable défensivement. Là, il est même respectable. Et c'est pas, D'Angelo Russell, enfin, il est intelligent dans sa défense. C'est-à-dire que c'est un gars qui est feignant en défense, on va pas se leurrer, c'est pas le mec qui fait les déplacements, mais c'est l'espèce de libéro à l'ancienne. Le mec, il défend avec sa tête et ça le sert bien et ça sert bien les Wolves. Et du coup, je trouve que c'est quand même cohérent qu'ils arrivent à avoir une bonne défense. Après, comme Ben, je pense pas qu'ils pourront garder, un tel niveau défensif sur toute l'entièreté d'une saison, tout simplement parce que là, ils vont rentrer dans le dur. Est-ce qu'ils vont être capables de garder les préceptes qui font qu'ils sont une bonne défense, ou est-ce que tous les joueurs vont dans le, c'est dans le dur en fait, tu reviens à tes instincts primaires entre guillemets. Dans le dur, tu reviens à tes instincts primaires. Et est-ce que tous ces joueurs-là, si par exemple tu défends bien, tu arrêtes de faire des stops, est-ce que tu vas pas plus te concentrer sur le scoring, tu vois?
Ouais, mais c'est une question de confiance. Moi, c'est ce que j'avais noté. C'est difficile de faire confiance aux Wolves pour maintenir ce niveau-là, même si on a envie, comme chaque année, et c'est ce qui fait souvent marrer Ben, de se hyper parce que y a un personnel intéressant, il y a la progression d'Anthony Edwards, on va en parler d'ici quelques instants. Et puis voilà, là, ils sont, comme vous l'avez dit tous les deux, ils sont très bons défensivement, c'est difficile de les voir tenir ce niveau-là. Et en même temps, on a envie. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie. Il y a un côté séduisant dans cette
équipe. Pourquoi vous avez tous envie que les Wolves soient bons? Faudrait que... Ça, c'est la question qui m'obsède, moi.
Je vais te répondre. Je vais parler au nom des gens qui aiment Carl Anthony Towns.
Towns.
Ouais, je peux comprendre.
Parce que le skill set de ce joueur-là est extraordinaire et c'est super plaisant à voir. Oui, voilà. Et puis, la progression d'Anthony Ward. Allez, on va y passer tout de suite parce que ça fait partie du sujet. Les questions suivantes, je vais les regrouper. La première de Worm qui nous demande quel est le plafond d'Anthony Edwards, et celle de Jade M qui nous demande est-ce que vous ne pensez pas qu'Edwards est un peu, entre guillemets, sous-estimé? Je le cite, le jeu, le mental, le leadership, j'ai l'impression que c'est déjà un grand joueur mais qui ne précipite pas les choses non plus. Alors, comme tu l'as dit Ben au tout début sur la première question, Anthony Edwards il a joué 100 matchs en NBA, donc tout le monde reste calme, il est a priori bien respecté, je ne crois pas avoir entendu, on en parlait entre nous un peu avant l'enregistrement, d'observateurs NBA dire qu'Anthony Edwards était pas bon. À peu près tout le monde le voit très fort. Donc voilà, il y a ce facteur-là aussi. D'Angelo Russell, comme tu as dit, Tom, peut-être qui arrive à un moment de sa carrière où il est un peu plus mature, un peu plus... je sais pas, peut-être un déclic mental. Voilà, moi, c'est à ça que j'ai envie de croire du côté de ces Wolves. Mais pour le cas, du coup, Anthony Edwards, tiens, vas-y, Ben, je vais te redonner la parole. Bon, il n'est pas vraiment sous-estimé.
Je pense pas. Et D'Angelo Russell, il arrive peut-être aussi à un carrefour de sa carrière où si il échoue encore du côté des Timberwolves, il y a certaines choses, enfin, ça aurait pu être difficile.
C'est vrai. Bref,
vis-à-vis d'Anthony Edwards, j'ai du mal à le considérer comme sous-estimé. En fait, j'ai du mal à estimer un joueur si tôt dans sa carrière, même s'il a un pedigree de premier choix de draft, etc. Je trouve ça difficile. On peut commencer à parler d'un joueur sous-estimé peut-être année 3, année 4, quand on a commencé à se faire une vraie idée. J'en parlais en off, c'était le joueur numéro 2 quand on avait posé les questions au GM au niveau de celui qui va exploser. Le premier, c'était Jaren Jackson. Donc en plus, lui, c'est un joueur de deuxième année. Donc on s'attendait vraiment à ce qu'il explose. Donc non, je pense pas qu'il soit sous-estimé. Vis-à-vis du plafond, c'est peut-être un peu tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que Tom t'en parlait avant qu'on enregistre. Oui, c'est un joueur qui peut, sur des très courtes séquences, prendre feu. Ça, on l'a vu et il le fait déjà très jeune. Mais c'est difficile de voir d'estimer son plafond. C'est difficile, enfin, à l'heure actuelle. Il arrive déjà à être une option offensive viable si tôt dans sa carrière, donc avec des coups de chaud, comme je l'ai dit. Donc, c'est plutôt très positif.
Est-ce qu'il n'y a pas un point, Tom, pour te relancer là-dessus? Le point intéressant, peut-être, cette question, en tout cas, là, selon moi, c'est le mental, parce que c'est ce qu'on a un peu évoqué tout du long là sur ce cas des Wolves. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un chien du côté des Wolves. Voilà, un joueur qui a, comme on disait quand on est vieux, la niaque. Donc, est-ce que c'est pas ça la plus-value d'Anthony Edwards qui pourrait être, entre gros guillemets, sous-estimé?
Oui, il y a ça. Après, faut pas oublier que les Wolves ont quand même recruté Pat Beverly et il y a
c'est vrai que dans le style.
Britt Robson et du coup Dan Moore qui suivent l'équipe et qui sont un peu au contact des joueurs dans les vestiaires. Ça, on parlait dans un épisode de leur podcast où ils expliquaient que Beverly était vraiment un joueur très important en fait dans la culture. Il a permis de faire certains joueurs grandir. Donc oui, après Anthony Edwards, comme Ben le disait, c'est un joueur de coup de chaud. Mais la problématique de certains joueurs de coup de chaud, c'est que en dehors de coup de chaud, parfois ils font rien. Et c'est ça pour lui avec quoi il faudra lutter. C'est vrai que c'est un joueur qui est très charismatique. Hein. Quand tu le regardes, tu vois son jeu, il a un jeu
explosif,
assez à risque, un jeu assez vif. Assez producteur de
posters,
de highlights entre guillemets. Justement, c'est un joueur que tu peux avoir tendance à entre guillemets surévaluer par en ne regardant que les flashs et en oubliant tous les à côté quand il est un peu moins bon. Du coup, quand tu vois, il y a des cartons où il disparaît totalement. Donc ça, pour l'instant, ça peut être mis juste sur le point de l'âge, mais ce sera quelque chose à surveiller avec un joueur comme ça. Après, moi, ce que je me dis, c'est que des joueurs comme ça, il y a trois choses qui sont très importantes pour eux, ces joueurs-là. La première chose, c'est quoi ton plafond réel, c'est quoi ton niveau que tu peux atteindre maximum sur un match. La deuxième chose, c'est quoi ta proportion à pouvoir répéter ton niveau maximum, encore une fois, sur un match. Donc, est-ce que tu peux être à ton pic tous les 10 matchs ou tous les 5 matchs,
au moment où ça
tous
compte,
les 2
comme
matchs,
tu disais
voilà.
Tout à l'heure pour les Suns, par exemple.
Voilà, un peu pareil, voilà, c'est ça. À quel point tu peux avoir c'est ça. Et la dernière chose, c'est à quel point, quand tu n'es pas bon dans ce que tu fais d'habitude, tu es capable d'aider l'équipe. Et je pense que c'est sur ce dernier point-là qui va vraiment faire la bascule pour Anthony Edwards. Mais je pense que c'est un joueur qui a, pour moi, un plafond à l'NBA.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, quel est le plafond, quel est le plancher, pour en rajouter une? Et le plancher, c'est quoi actuellement? C'est, comme tu as dit, un joueur de coup de chaud, un sixième homme
Sixième homme,
ça serait décevant. Je pense que
ça serait décevant.
C'est le seul. Hein.
Ouais. Mais non, je pense que ça serait surprenant de pas le voir titulaire encore dans 6-7 ans, que ce soit à Wolves ou dans une autre équipe. Mais après, le plafond, Tom l'a dit, il va falloir qu'il monte, mais ça, il est très jeune. C'est pour ça qu'on est encore dans la projection. Capacité à influer le jeu en dehors du scoring, en fait, et pas être un trou noir, quoi.
Défensivement, il a des séquences où il le fait, mais tu vois, il y a très peu de matchs de, enfin, après, j'ai pas vu tous les matchs des Wolves, mais il y a très peu de matchs où je l'ai vu avoir un énorme impact des deux côtés du terrain. C'est soit il est total scoring et un peu moins en défense, soit il est très très bon en défense et vraiment moins bon au scoring, tu vois. Il y a pas encore le two-way impact vraiment.
Je te laisserai faire ta transition, Adrien, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est la description de tous les jeunes joueurs, des jeunes talents des Wolves sur les 10 dernières années qu'on est en train de faire.
Oui, mais d'où la question de, tu vois, tu parlais de la culture, Tom, de Pat Beverly, de les polémiques.
Tom, il a fait le même, là. Tu vois, le même en mode, non, ah oui, en fait.
Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a quelques années, c'était déjà les questions qu'on se posait avec quand il y a Jimmy Butler qui est arrivé sur le duo Andrew Wiggins-Karl Anthony Towns. Et c'est on a un peu l'impression que le schéma se répète un peu, mais y a peut-être des signes encourageants quand même sur ce début de saison. Aussi, c'est une équipe, alors c'est difficile d'accorder beaucoup de crédit à ça, mais là, qui a vécu des choses difficiles, notamment donc la vie perso de Towns, mais je pense que ça peut souder un groupe et ça peut aussi faire une espèce de bascule, parce qu'il y avait une espèce de dilettante du côté des Wolves, le côté très talentueux, allez, on joue au basket parce que c'est marrant, et puis on voit où ça nous mène, quoi. Il manquait un peu de... Voilà. Manquait d'aller au front, peut-être que ça peut changer, mais effectivement, pour reparler du plafond, pour revenir à la question, Anthony Edwards, moi pareil, j'avais noté All NBA, peut-être même un peu plus haut, vraiment le plafond, si vraiment tout se passe bien, parce que tu l'as dit, Tom, il a ce jeu explosif en attaque et en défense, il est capable de très belles choses à certains moments. Donc, si tu deviens vraiment un two-way régulier, à ce niveau-là, tu t'approches le très, très, très haut niveau quand même.
Notamment sur la défense off-ball, tu vois. Encore, il y a de bons flashs sur le on-ball, mais sur des off-ball, surtout que, tu vois, vu qu'ils ont changé la couverture du pick and roll ou Towns un petit peu plus haut, ben, tu as besoin que tes joueurs off-ball soient conscients de ce qui se passe autour pour être conscients des aides qu'ils doivent apporter. Et ça, c'est quelque chose qui il doit être beaucoup plus discipliné. Mais après, c'est un jeune joueur.
Ouais, ben on lui souhaite bonne chance aux Wolves aussi. On verra, on fera les comptes au 25 décembre, donc comme l'a dit Ben, pour l'équipe de Minnesota. Passons à un endroit où il fait un peu plus chaud. On va aller sur la baie avec les Warriors pour la prochaine question. De Black et Déter, très joli jeu de mots. Je le salue au passage.
Solide.
Donc, il nous dit, on parle souvent du secteur intérieur faible des Warriors, donc de leur faiblesse. Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup les pénaliser? Il dit, je ne crois pas du tout en ce joueur, encore moins dans un setting PO, mais selon vous, auront-ils besoin de Wiseman pour les renforcer? Merci, et podcast au top. Donc, merci à toi, Black et Déter. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette faiblesse, entre grands guillemets, qui est souvent pointée du côté des Warriors? Cette fois-ci, je crois que c'est à toi, Tom, qu'il faut que je donne la parole en premier.
Bah, la faiblesse du côté des Warriors sur le poste 5, c'est visible que quand Draymond Green n'y est pas, en vrai. Puisque si tu te mets, entre guillemets, sur un setting playoff, on sait très bien que Draymond Green va jouer la majorité de ses minutes sur le poste 5. Et là, on a vu sur un match, ils ont été mis en difficulté par D'Anthony, D'Anthony Ayton. D'André Ayton, pardon. D'André Ayton, ils ont été mis un peu en difficulté parce que D'André Ayton a joué avec force. Mais des joueurs du type de DeAndre Ayton, il n'y en a pas beaucoup vraiment dans la ligue qui est capable de faire ce qu'il fait défensivement et qui est capable de pouvoir peser autant offensivement. Hein. Enfin, c'est un joueur qui a forcé les Warriors à commettre énormément de fautes parce qu'ils n'arrivaient pas à le stopper. Ils n'arrivaient vraiment pas à le stopper. Il était trop puissant pour eux. Et alors, c'est vrai, tu peux te dire que dans ce style-là, il y aura peut-être Anthony Davis à passer ou voir un joueur comme Bam Adebayo peut-être. Ou voire même Giannis, si tu veux les mettre à peu près dans le même type de registre. Mais je me dis que pour moi, cette équipe-là, comme elle est là, elle a pas besoin de poste 5 pour les playoffs. Je trouve que enfin utiliser des ressources pour se renforcer à ce poste-là, alors que Draymond va jouer peut-être 35 minutes par match là-dessus, ce serait pas forcément une bonne chose, sachant qu'en playoffs, tu peux avoir des choses comme par exemple avec des 5 avec Iguodala au poste 5 ou des choses comme ça.
Voilà. Ouais, est-ce que ce qu'a dit Tom est assez intéressant, Ben, je vais te lancer là-dessus, c'est le profil de DeAndre Ayton. Il y a Ayton dans son style, et après dans les gros pivots qui sont capables de vraiment embêter mais pratiquement toute la ligue, c'est Jokic Embiid. Est-ce que tu peux vraiment ramener une pièce pour stopper ce genre de joueur-là? Et est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'équilibre de ton équipe finalement?
Ça vaut pas le coup, et puis en plus... Quand on regarde bien souvent parmi les favoris au titre, si on prend leur banc, parce que là où c'est embêtant, ça serait si jamais tu fais sortir Draymond, il y a pas de... Souvent les équipes contenders se plaignent de leur secteur intérieur sur le banc, c'est parce qu'en fait personne n'a de bon secteur intérieur sur le banc. Donc idéalement, si comme l'a dit Tom, tu fais jouer Draymond, même si c'est beaucoup, hein, c'est 30-35 minutes au poste 5, en fait tu as conscience qu'en face, même si tu prends les Suns, on l'a vu sur les finales NBA, DeAndre Ayton, c'est un pivot, il peut pas jouer 40 minutes par match. Donc en fait, il y a un moment où le pivot en face sortira et personne n'a deux, trois solutions. Ils vont pas jouer Cleveland, je pense, du coup, en finale NBA. Donc du coup, personne n'a deux, trois grosses solutions qui peuvent poser problème. Je suis pas trop inquiété. Après, ça serait bien, vu que ces Warriors-là se positionnent comme des gros contenders pour les playoffs, de voir du Wiseman et surtout du Wiseman qui a un peu d'impact. Ça serait bien quand même. Pour la suite, pour eux, ça serait bien. Alors, je ne dis pas de jouer 20 minutes, Tom, mais il faudrait quand même pouvoir lui donner 10 minutes pour cette expérience de playoff. 5-10 minutes, c'est peut-être trop demandé, mais tu as investi sur ce joueur-là. Il faut quand même que si ton équipe a des... si ton équipe, elle en a déjà, a des velléités en playoff, il faut qu'il ait un mini rôle quand même. Ça va pas être le joueur central, mais il faut quand même qu'il soit capable de peser.
Un peu comme ce que les Hawks ont fait avec Okongwu l'an dernier, par exemple, derrière Capella. Ouais. Mais après, tu vois, tu te dis, les Warriors, ils ont testé des choses, par exemple, avec Kuminga en poste 5. C'est pas si mal, tu vois. C'est pas si mal. Ils ont quand même des choses, et je sais pas si, ouais. Franchement, si c'était pas un troisième choix de draft, est-ce que tu penses vraiment qu'on parlerait de ça? Vraiment.
Non, je pense pas. Après, je me dis que c'est aussi une bonne solution de repli de l'avoir. Parce que tu te dis quand même, il y a des fois où les Warriors sont arrivés en playoff où il y avait même pas de solution de repli. Là, tu te dis, si jamais on est vraiment submergé, on a au moins un mec à mettre et, on peut penser aux Suns en finale l'année dernière ou après la blessure de Saric. T'as plus personne, en fait. Tu vis et tu meurs avec Ayton. Là, ils ont au moins un mec à mettre.
Oui, et puis en plus, moi, c'est là où je voulais insister, c'est sur l'autre côté du terrain, en fait, parce qu'on se focalise sur leur faiblesse à l'intérieur, en défense. Bon, certes, sur certains profils, on en a parlé, ça va être compliqué, mais l'intérêt, c'est de pouvoir punir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont des line-up là avec Pielica, avec des grands shooters, et Wiseman, il te ramène un profil un peu différent de mec qui peut t'amener des points de ce côté-là. Mmh. C'est là où il peut être intéressant, c'est que tu as une pièce supplémentaire un peu différente, et puis tu as un Kevon Looney qui est aussi qui fait le taf, en fait. Alors oui, tu peux avoir des problèmes de faute, ça leur a posé des soucis. Mais finalement, en l'état, moi, je trouve que la variété des profils de leur secteur intérieur est assez intéressante. Finalement, si tu dois te faire punir par des mecs très, très forts à l'intérieur, et il n'y en a pas beaucoup, tu vas essayer de compenser de l'autre côté, finalement. Je pense que c'est là où passera le salut des Warriors s'ils doivent se retrouver dans cette situation, finalement.
Ouais, ce sera un peu leur mec, leur Festus et Zenith.
Ouais, exactement. Ouais. Puis tu bases pas ton équipe sur trois potentiels pivots que tu vas peut-être, il y en a un qui est pas dans ta conférence, il y en a un autre dont l'équipe est en lambeaux, tu peux pas baser ta stratégie sur ça.
Tout à fait. Eh bien, enchaînons parce que je vois que le temps passe et qu'il reste des questions. Donc, question suivante, on reste du côté des Warriors. Il y a Jade Aim qui nous demande, vous pensez que des joueurs comme Kuminga, dont parlait Tom, ou Barnes ont bénéficié de ce qu'un joueur comme Draymond Green peut apporter à une équipe championne, donc de l'intérêt de jouer à côté d'un Draymond Green? Bon. Oui, probablement.
Oui.
Oui,
totalement.
Oui, certainement. Après, peut-être pas, ce sont pas des choses qui vont se voir peut-être sur le terrain, mais je pense que au niveau préparation, je pense que même simplement de voir comment le gars se prépare, de regarder des films avec lui, des vidéos,
des films de match, on en porte le vent, voilà. Oui, effectivement.
Voilà, c'est ça. Des films de match, peut-être son approche du jeu pour quand tu joues un sport, parfois le simple fait de regarder un vétéran faire, de par exemple de regarder ce qu'il voit sur une action que toi t'aurais pas vu, mais ça, quand tu rentres sur le terrain, tu vois peut-être les choses différemment et ça te permet aussi à toi ça te permet d'avoir un petit peu plus d'humilité puisque tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais pas. Et ça, c'est parfois c'est important et ça t'apporte aussi le fait de voir que t'as les moyens encore de progresser, quoi.
Oui, tout à fait. Je pensais pas grand chose à ajouter. Si moi j'avais noté que Barnes, il a bénéficié financièrement aussi de ce cas-là, mais on est un peu sorti.
Il doit lui donner un pourcentage.
Voilà, il le doit pas qu'à Draymond Green, mais son passage aux Warriors, en tout cas, ouais. C'est ça. Après Kuminga, on est au tout début. C'est un très jeune joueur. Mais effectivement, dans le profil en fait qu'a Kuminga, être à côté d'un Draymond Green, c'est parfait parce que justement, ça peut montrer, comme tu disais, Tom, ce que tu dois faire, ce que tu peux faire. Même si tu n'es pas un shooter ou un pivot de très grande taille, quoi.
Après, dernier truc sur Draymond, et je vais faire la transition vers Clay, parce que je vois qu'on t'empêche de faire les transitions.
Vas-y, Adrien.
Le truc sur Draymond, c'est moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on a souvent remis en question la capacité de ce joueur à vieillir. Globalement, les Warriors, tout le monde était inquiet sur leur capacité à vieillir après le premier round. On voit qu'en fait, c'est une équipe qui vieillit bien parce que beaucoup de leur succès ne s'est pas fondé sur des qualités athlétiques ou des choses qui allaient dépérir, en fait. Il y a beaucoup de cul basket, de shoot, etc. Et c'est des choses qui vieillissent mieux que de la présence physique brute. Là où, par exemple, sur un Klay Thompson, notre question suivante, je te fais une petite passe décisive.
Magnifique.
Adrien, sur ce qu'on pense du retour de Klay, c'est une question de Seb Ben Wagoner, Lakers fan. J'ai pas pris
le bien joué, c'était pas le plus simple.
Et en gros, est-ce que c'est normal que la NBA tremble sur le retour d'un Klay et d'un Wiseman dans une moindre mesure? On a parlé de Wiseman. Vis-à-vis de Klay, pour moi, la Klay, elle est défensive. Si défensivement, il reste solide, c'est Klay Thompson. Les gens vont le respecter, même s'il met à 25% Les défenses ont continué à le respecter. Et vous voyez ce que fait Stephen Curry en ce moment quand même. Vous imaginez le truc avec un autre mec qu'on respecte beaucoup comme un Klay Thompson. Ça risque d'être dangereux. Donc, je pense pas que la NBA doit pas trembler parce qu'on va pas retrouver les Warriors qu'on avait vus à 72 victoires. Non, mais effectivement, ça leur amène une corde à leur arc parce que on parle souvent d'ici la gravité. On va respecter Klay Thompson parce que c'est Klay Thompson. Donc, encore plus de difficultés à défendre. Donc, les équipes peuvent être inquiètes, oui, mais la clé sera le niveau défensif.
Je t'ai vu acquiescer, Tom. Même chose.
Pas forcément sur la première partie, sur le vieillissement, parce que Draymond, on s'en rend compte, offensivement. Draymond, il est un peu, c'est plus le Draymond d'il y a 3-4 ans.
Mais tu vois, les questions sur Draymond, les gens les posaient défensivement, en fait.
Mais défensivement, il est trop fort.
Défensivement, il est fort, mais offensivement, c'est un peu gênant, en fait, qu'il n'arrive pas à mettre des layups.
Il arrive moins à les finir en force, etc. C'est vrai que c'est...
Ouais, ça, mais tu vois, il y avait beaucoup la question, ouais, mais défensivement, il pourra plus tenir une équipe à 30.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui.
Oui, oui, je comprends, ouais.
Oui, oui. Mais oui, oui. Sur le point de vue défensif, oui, t'as totalement raison. Après, là, je suis un peu, dubitatif, c'est vraiment offensivement. Après, comme tu, avec le retour de Klay, ils ont peut-être pas besoin d'un Draymond hyper, hyper fort, même si c'est un des joueurs majeurs à la création pour cette équipe-là. Mais oui, le retour de Klay sera scouté. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. En tout cas, moi, c'est assez marrant de voir que les gens sont les mêmes personnes qui critiquaient les Nets pour, je vais pas dire l'empilement de stars, mais qui critiquaient les Nets parce qu'ils avaient énormément de gros salaires et que les gens prenaient des balades pour venir chez eux. Ne critiquent pas les Warriors ne critiquent pas les Warriors qui explosent la luxury tax alors qu'ils demandaient un hard cap.
Ouais, non, mais qui ont bien construit tout ça, parce qu'effectivement c'est ça ce que tu disais avec l'ajout de Klay et peut-être Draymond un peu moins bon en tant que finisseur offensivement, c'est surtout ça, mais ils en ont plein des mecs de fin de chaîne hyper efficaces là cette année, c'est ça qui les rend extraordinaires, c'est que t'as Andrew Wiggins, t'as Jordan Poole, t'as voilà pour les corners, t'as Otto Porter, t'as un Gary
top
15 shooter évidemment, t'as un Gary Payton fils qui personnellement me vend du rêve, donc voilà l'ajout de Klay effectivement ça tu rajoutes un gars, comme tu disais, Ben, tu rajoutes un des meilleurs shooters, un des peut-être top 2 meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Pardon, quoi. Donc forcément, même s'il n'est pas, pas totalement en jambes, même s'il ne peut pas donner autant de minutes que ce qu'il a pu faire, juste tu rajoutes cette option-là sur certaines séquences pour rajouter une gravité, soit en plus à Curry, soit sans Curry, justement. C'est que tu rajoutes un autre, un gars qui va être obligé d'être surveillé. Bon, forcément, c'est toujours un bien, quoi.
J'ai juste une question pour vous par rapport à ça, après je vous laisse bouger. Les Warriors qu'on voit là, est-ce que c'est pas juste le meilleur visage et que la suite de la saison peut vraiment être pire ?
Ils ont eu un début de saison avec un calendrier assez facile. Mais, excuse-moi Ben, j'ai un peu grillé à priorité.
Non, mais si, en fait, on allait dire la même chose. Donc, je pense que si je dois faire ma hiérarchie des favoris au titre, je les mets moins haut que certaines personnes à l'heure actuelle, parce que je me méfie. Mais ils m'ont quand même avec un calendrier facile, je m'attendais pas dans l'impression à les voir si fort, en fait.
Mais voilà, c'est un peu ça. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que le calendrier facile, il leur a permis, alors tu pourrais dire que c'était un trompe-l'œil, mais il leur a aussi permis de rentrer dans un certain rythme et de retrouver une certaine confiance sur certains joueurs, peut-être qui avaient des doutes, et de trouver les automatismes. Enfin, c'est hyper propre comme ils jouent. C'est hyper propre. Bon, il y a Stephen Curry qui prend des shoots. Si n'importe qui d'autre le prend, c'est n'importe quoi. Bon, il se trouve que lui, il aimait. Bon, voilà, tant mieux, ça aide. Il a un niveau stratosphérique. Ça fait plaisir de retrouver Curry d'ailleurs comme ça. Donc, ouais, non, je pense pas qu'il y ait tant que ça un trompe-l'œil. Je pense quand même qu'ils sont très forts. Je sais pas, Tom, tu avais une réponse à ta propre question, j'imagine.
Ah, moi, je pense que. En fait, là, on les voit à l'apogée, mais j'aurais été plus rassuré de les voir comme ça en mai que maintenant. Je suis pas, en fait, ce qu'ils montrent sur le début de saison, je trouve que c'est dans les projections vraiment très hautes de ce que je les pensais capables de faire, tu vois. C'est pas la médiane, en fait. Pour moi, ce qu'ils montrent, c'est pas la médiane. Ils sont vraiment bien, bien au-dessus.
Oui, mais la question, c'est est-ce qu'ils peuvent le rester? Est-ce qu'ils le sont véritablement ou est-ce qu'ils le sont juste temporairement?
Ils savent le faire déjà.
Ils savent.
C'est ça, en fait. Ils savent le faire. Et ça, je veux dire, alors ils vont peut-être prendre un coup de mou à un moment, mais même d'un point de vue confiance, même si tu bats pas les meilleures équipes, bah ouais, bah quand tu démarres à 80% de victoires pour la suite de la saison, ça crée une dynamique. Donc non, je suis pas trop inquiet. Moi, globalement, je suis jamais inquiet. Pour moi, un trop bon début, ça n'existe pas.
Oui, trop bon. Un trop mauvais, si, par contre. C'est autre chose.
Ouais, ouais.
Et justement, en parlant d'inquiétude, enchaînons avec le cas. Le cas Kyrie Irving au Brooklyn Nets, puisque c'est la question de... Alors là, il y a beaucoup de chiffres. On pourrait le lire KB 92300, mais je vais le prendre KB Noévé 2300 pour notre cher Karim Benzema, mais en tout cas, qui nous pose la question. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, moi, là, à l'a priori, et puis après, je me suis dit, ah non, ça ne correspond pas forcément. Mais bon, bref.
Et je crois que c'était un auditeur qui nous avait dit que c'était un code postal.
Peut-être il est dans le 92-300. Effectivement, ça peut être ça. Mais Karim Benzema n'est pas du 92. Bref, revenons au basket. Donc, la question posée, c'est où en est ce cher Kyrie Irving? Quelle est la solution pour les Nets avec lui? Et j'ajoute la question qui va avec derrière, qui est de Souli Sosa, qui nous demande, est-ce que les Nets sans Kyrie peuvent passer les finales de conf contre un autre contender de l'Est? Il cite par exemple les Bucks ou Miami au complet, bien sûr. Et pensez-vous, alors ça, c'est une question en plus, pensez-vous un back-to-back des Bucks? Donc ça, on l'aura dans un deuxième temps. Le cas Kyrie Irving, bon, il est où, Ben?
Petit point Covid. Alors, on a eu des dernières informations de Shams Charania qui était passé dans le Pat McAfee Show, très bon podcast NFL, où il a dit qu'il n'y a pas d'avancée, en fait. Donc voilà, c'est toujours Kyrie ne veut pas se faire vacciner, les Nets ne veulent pas le réintégrer uniquement pour les matchs à l'extérieur, donc ça ne bouge pas. Petit point politique, il y a eu une élection d'un nouveau maire à New York. Le nouveau maire veut continuer le fameux mandat qui bloque Kyrie Irving. Donc, vraisemblablement, dans les semaines qui viennent, ça ne devrait pas bouger. Si, en termes de conviction, en termes de vaccination, tout simplement, Kyrie ne se fait pas vacciner. Si les Nets, du côté des Nets et de Kyrie, ça ne bouge pas, il va rien se passer. Donc, qu'est-ce que les Nets peuvent faire avec lui? Bah, à l'heure actuelle, rien, quoi. C'est le point mort. Tu ne vas pas, il y a pas mal de rumeurs sur des trades. Je tiens à signaler d'abord que vu que Kyrie refuse de se faire vacciner, déjà, de base, il est inéligible pour pas mal d'autres équipes. C'est-à-dire, il ne pourrait pas aller... Vous allez me dire, c'est que de l'anecdotique, mais Warriors, Lakers, Knicks, Raptors, Clippers, déjà, il ne peut pas y aller.
C'est
ça
bon.
Fait donc 5 équipes sur 29 où déjà, de base, il ne peut pas y aller vu ce qui passe actuellement. Donc... il a une player option l'année prochaine à 36 millions. Vu le comportement actuel, je pense que ça refroidit certains GM. Donc, il va rien se passer. Je pense même que du côté des Nets, on se prépare à pas le voir de la saison. Hein, je pense.
A priori. Donc, on va dire que Kyrie Irving est du côté d'Instagram. Il n'y a pas grand-chose à ajouter pour le moment.
Exactement.
Tom, du coup, la question d'après. Du coup, les Nets sans Kyrie, qu'est-ce qu'on en pense?
Les Nets sans Kyrie, c'est difficile parce que James Harden n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. Bon, il revient progressivement, mais on est loin du James Harden qui était pour moi niveau MVP quand il a joué la saison dernière aux Nets. Donc, faut voir là, les Nets, c'est une équipe quand tu regardais le début de saison, tu te disais, ils sont blindés. Et au final, là, ils sont avec l'absence de Kyrie et avec un James Harden qui est un peu en dedans, eh ben, ils ont quand même pas mal de line-up un peu hybride. Où t'es obligé de faire des choix ou l'attaque ou la défense. Aujourd'hui, quand tu regardes statistiquement, c'est la 10e attaque de la ligue. Ça peut paraître décevant par rapport au personnel, mais c'est aussi la 10e défense de la ligue. Et ça, c'est assez surprenant. Et quand tu regardes, ils sont par exemple, ils sont premiers à l'IFG des adversaires.
Donc l'efficacité des tirs.
L'efficacité des tirs des adversaires. Par contre, à la location des tirs au prix. Par rapport à l'efficacité moyenne que les adversaires auraient dû avoir, ils sont 20e. Tout ça parce que les adversaires shootent à 31% à 3 points contre eux, alors que la moyenne de la ligue est à 35%. Ça, pour moi, c'est un facteur qui peut, à l'image des Knicks de l'an dernier, c'est un facteur qui peut être aggravant durant, à mesure que la saison va avancer. Donc, il va falloir qu'ils élèvent un peu le niveau offensivement de cette équipe. On voit qu'il y a pas mal de choses. Enfin, Steve Nash essaie de tenter des choses. Il a essayé Millsap. C'est pas ouf.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
On voit plus Griffin.
Il a Blake Griffin aussi. C'est compliqué. Là, il est obligé de bricoler un peu avec du Johnson, du Bembry. Enfin, voilà, quoi. Enfin, voilà. Sans Kyrie Irving et avec un James Harden qui n'est pas top 11 NBA, c'est plus compliqué pour cette équipe-là.
Ils n'ont plus de marge. Ils n'ont plus de marge, en fait. Et sachant l'association de... Ça me fait beaucoup penser aux Lakers, ce que je vais dire. L'association de joueurs un peu vieillissants, ça marche quand tu as de la marge, en fait. Quand, oui, tu te dis que, bon... Les 60 premiers matchs de saison régulière, on peut les gérer de manière assez avec le pilotage automatique. Sauf que là, au vu du, comme l'a dit Tom, le niveau de James Harden, et puis globalement l'équipe où il y a plein de joueurs qui ont fait des bonnes saisons l'année dernière, Joe Harris, j'en avais parlé, qui est en difficulté et qui est blessé maintenant. Il y a toutes les problématiques qui s'accumulent. Donc, est-ce que dans le niveau idéal des Nets, je les vois en finale de conf? Oui, mais j'ai de plus en plus l'impression que ce niveau idéal, c'est une chimère et que ça va être plus serré que prévu. Enfin, en l'état, ça risque d'être compliqué.
C'est ça, mais finalement, que prévu, c'est-à-dire qu'on avait prévu qu'ils éclatent tout le monde. Donc forcément, ça va être plus compliqué que prévu. Donc je suis un peu d'accord, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Effectivement, ils sont en difficulté. Moi, je les ai vus encore hier soir au moment d'enregistre face aux Bulls. Oui, tu as beau avoir KD, ce qui est déjà pas mal, parce que le KD de cette année, ça reste toujours correct, hein, on va dire. C'est un euphémisme. effectivement, il faut qu'Harden retrouve son niveau. Tu l'as très bien dit, Tom. Il faut qu'Harden retrouve le niveau d'un top 11 NBA pour que tu aies cette marge qui te permette de bricoler derrière avec les pièces peut-être un peu moins fortes. Surtout que là, tu as plein de questions. Quand j'ai cité Blake Griffin, c'était pas juste pour le plaisir de citer Blake Griffin. C'est que c'est un des joueurs qui a surperformé l'année dernière en playoff. Et on s'est dit, ah tiens, du coup, ça comble un besoin quelque part, c'était assez extraordinaire. Effectivement, sur la durée, ça tient pas. Donc là, ils essayent des choses. Millsap, tu l'as dit, la Marcus Aldridge de temps en temps. Et là, il a poussé Bruce Brown, limite le pivot, hein, et qui gobe les rebonds. Ouais. Il y aurait des choses à faire, mais pour ça, il faut que t'aies deux joueurs, puisque donc on exclut Kyrie, soit un niveau top, même top 11, ouais, allez, top 11, comme on l'a dit, du DH20.
Parce qu'en fait, c'est un run qui peut rassurer. La saison dernière, c'est un run qu'ils font, en fait. Ouais. Il y a un moment où Griffin arrive, tout la renaissance de Griffin, etc. Il y a un moment où ça, entre guillemets, je vais utiliser un anglicisme, désolé, ça clique. Voilà, à un moment précis, mais c'est pas la même histoire quand tu mets dans ta rotation des joueurs vétérans, des joueurs qui ont beaucoup joué, c'est difficile.
Tout à fait. Et ben voilà pour le cas Nets. On a passé l'heure, mais bon, c'est une foire aux questions. Alors, on va continuer. Il reste encore quelques questions sur plein de sujets différents. On va essayer peut-être d'aller un peu plus vite, mais on va parler quand même des Cavs, on en parle peu. Une question de Pietro qui nous demande si Mobley continue à ce rythme et que Cleveland garde un top 10 en defensive rating. Est-ce que Mobley donc a une chance d'être All Defensive Team à la fin de la saison, selon vous? Ben, Mobley, All Defensive Team?
Alors, j'adore quand il faut prévoir un truc. Alors, posons les bases déjà. On est dans une composition intro... Définition du sujet. Donc, All Defensive Team, deux équipes, votées, deux arrières, deux ailiers, un pivot. Il sera, même s'il joue à peu près partout dans cette équipe des Cavs, il sera voté comme ailier, je pense, l'ami Evan Mobley. Alors, la concurrence, j'ai mis Draymond Green, qui pour moi est sûr d'être first, probablement.
Il peut être Depoy carrément. Donc,
il peut même être défenseur de l'année. Et ensuite, pour le reste, j'ai mis, quand on regarde ce que j'ai fait, les bulletins de vote d'année après année, on remarque que c'est quand même les All Defensive Team et tous les trophées défensifs. Enfin, il y en a deux avec le défenseur de l'année. C'est quand même une catégorie où ça paye vraiment la réputation. Et j'ai peur qu'en un an, il n'ait pas assez de réputation, l'avis Evan Mobley, parce que pour moi, Giannis sera dans une des deux. Giannis, il sera dans toute sa carrière, je pense, sur la réputation, même si ça reste Giannis, hein. Ça reste un ovni défensivement. Ensuite, on a Mikal Bridges, qui fait une énorme saison à l'aile et qui y sera aussi. Il a raté l'année dernière de très peu, il va y aller cette année. Du coup, ça te laisse qu'une place. Tu penses à des mecs comme Bam Adebayo, même s'il va être absent, etc. Pour moi, ça va être trop court.
Butler, Tucker.
Ouais, trop court.
Tom, même chose, trop court.
Oui, après, je pense qu'il a des... Si c'est... La question, c'est est-ce qu'il a des chances s'il se maintient top 10? Oui, il a des chances s'il se maintient top 10. Est-ce qu'ils se maintiendront top 10? Je pense pas. Est-ce qu'il sera All Defensive Team à la fin de l'année? Je pense pas non plus.
Oui, c'est ça. Après, moi, je me suis dit peut-être dans un esprit de récompenser un peu quelque part la saison de Cleveland qui est surprenante. Est-ce que quelqu'un essaiera de glisser quelque chose? Je suis pas sûr que Mobley cristallise assez à ce niveau-là. Comme vous l'avez dit, la question de la All-NBA, tu l'as bien défini, Ben, on définit le sujet. C'est la concurrence et cette histoire de réputation. Pas encore, mais il y sera probablement dans les prochaines années finalement.
Les gars, Westbrook, il a eu des votes en All Defensive Team l'année dernière. Franchement, si vous avez défendu une fois dans votre carrière et que vous êtes un nom un peu ronflant, vous avez des votes. Hein. Donc, je pense que Mobley, on peut en parler dans un an peut-être, mais pas maintenant.
Ouais, c'est vrai, on n'a même pas mentionné, mais il y aura peut-être aussi Anthony Davis.
Oui, aussi.
Tu vois, Davis, l'année dernière, il a plein de votes, alors que sur la saison régulière, il n'est pas incroyable, tu vois. Donc, ouais.
Et puis en plus, il manque du monde sur les réputations. Tu as toujours notre ami Kawhi, normalement, qu'il y est. Bon, là, qui ne sera pas. Enfin bref, il y a plein de noms qui peuvent se glisser là-dessus, comme tu l'as dit, Ben. Mm. Donc on lui souhaite, mais a priori, peu de chance. Enchaînons avec le sujet des blessures posé par Tom T, T-Y-I. Les blessures des joueurs NBA, donc qui s'empirent niveau gravité, selon lui, depuis 2-3 ans. Votre avis sur la cause de telles blessures? Bon, c'est un cas régulier, effectivement. On le voit avec des joueurs qu'on a mentionnés tout au long de cet épisode. Les différentes causes.
Après, on salue, shout out à Tom du FKP, du feu FKP. Le truc avec les blessures, c'est que j'ai pas l'impression que cette année, les blessures, il y a pas de blessures graves par rapport, comparé à, par exemple, aux 2-3 dernières saisons où c'était beaucoup plus l'hécatombe, tu vois. Je vois qu'il y avait beaucoup de tendons, de croisés. Là, je crois qu'il y a pas encore de croisés.
Part du principe qu'il va y en avoir.
Non, c'est ça. Moi, je pense que, là, on va repartir sur un cycle normal. Je pense que, on le dit souvent, aujourd'hui, le jeu NBA est hyper, hyper exigeant. Tu soumets ton corps à des tensions pas possibles pour pouvoir rester sur le terrain aujourd'hui. Il y avait le rythme, entre guillemets, accéléré des matchs. Je parle pas de pace, de pression, mais la répétition et la fréquence à laquelle tu jouais des matchs avec l'année
Covid,
l'année post-bulle, tout ça, le Covid, tout ça. Il y avait pas mal de petits facteurs, entre guillemets, qui faisaient que. Mais là, je pense que les joueurs peuvent reprendre, entre guillemets, des routines normales. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir baisser un petit peu, sur les blessures graves.
Parce que c'est vrai qu'il y a une impression de nombreuses absences, parce qu'il y a des absences de longue date, avec des joueurs qu'on ne voit pas de la saison. On a cité Kawhi Leonard, n'est pas longtemps, Jamal Murray, le cas Michael Porter Jr., donc il va prendre un petit temps, mais c'est plus une blessure récurrente qui revient. Effectivement, moi j'avais noté le rythme de ces dernières saisons qui était infernal, que ce soit en termes de déplacement ou de densité, ça a forcément appuyé fort sur les organismes. Est-ce que tu vois une autre cause, toi, Ben?
Moi, j'avais fait mes petites recherches, vous me connaissez. J'avais lu un article, il y avait un article d'ESPN de Braxton Holmes avec Kevin Pelton, qui, en fait, il y avait en fait les stats, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impressions. Alors, il y avait, par rapport à l'année dernière notamment, c'est vrai, plus de blessures, et il y avait des coachs qui parlaient, effectivement, vous l'avez dit, le rythme des matchs, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner. La plupart des blessures qu'il y avait, c'était le fait de ne pas pouvoir s'entraîner, ça amenait ce type de blessure-là. Il y avait notamment Mike Malone qui expliquait que il avait 20 ans d'expérience en NBA, c'était de loin la saison la plus difficile. Après, je pense que c'est une impression, surtout, tu l'as bien dit, Adrien, parce que c'est les joueurs qui nous manquent. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était écrit que les joueurs All-Star avaient raté 19% des matchs auxquels ils avaient pu participer. C'est énorme, c'est de loin un record, et c'est ça, en fait, c'est pas tellement la gravité, oui, c'est surtout qu'il y avait beaucoup d'absences répétées, de blessures qui écartaient des terrains 2-3 semaines, et mis bout à bout, t'avais l'impression qu'il y avait personne, donc c'est ça qui était compliqué.
On va espérer, justement, comme tu as dit, Tom, qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures en touche du bois pour la suite de cette saison, même si, bon, voilà, il y a quelques équipes handicapées pour la saison qui vont avoir des retours en cours de saison. Maintenant, on passe à un tout autre sujet pour la question d'après. Là, on est en vrac. On va partir du côté de Philadelphie avec ce qui était le grand cas de la fin de l'été, du début de saison. On en parle un peu moins en ce moment, mais c'est vrai que c'est toujours une problématique. Une question donc de HNR. Que pensez-vous de la gestion de Morey dans le cas de Ben Simmons? Alors Ben, tu en as un peu, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure en début de podcast qu'on allait parler de ce sujet-là. Bon, qu'est-ce qu'on en pense donc?
Bah, on en pense qu'il attend, en fait. L'ami Daryl Morey, il attend et il veut pas, tel un joueur dans une partie de poker, il veut pas faire tapis alors qu'il pense pas avoir les bonnes cartes. Enfin, je pense que Morey continue. Il veut échanger, bien sûr qu'il va l'échanger Ben Simmons, mais il veut pas l'échanger contre n'importe quoi. Ce qu'on peut dire à Daryl Morey, c'est qu'il a été cohérent depuis le début. Il a dit qu'il ne braderait pas Ben Simmons, il brade pas Ben Simmons. Après, vis-à-vis du cas Ben Simmons, il est dans une situation où il avait dit qu'il avait besoin d'aide au niveau de la santé mentale. Donc, je pense qu'il est très loin des parquets pour des raisons différentes d'un Kyrie Irving. Mais lui, c'est plutôt mentalement après la gestion, ce qui s'était passé après l'élimination contre les Hawks. Donc, ce qu'on en pense de la gestion, il a raison d'attendre, je pense. Mais j'ai l'impression que les deux situations dont on a parlé, Irving-Simmons, elles sont pas prêtes de se résoudre, en fait. Pour moi, ça va s'enterrer, ça va être long. Et ouais.
Ah, je t'ai vu acquiescer, Tom, pour toi aussi, ça va durer.
Oui, enfin, je vois pas qu'est-ce qui pourrait changer. Je vois pas une partie faire un pas vers l'autre. Tu vois, je vois pas Ben Simmons rejouer sous le maillot de Philadelphie. Et je vois pas non plus Daryl Morey transférer Ben Simmons pour un joueur non All-Star. Donc ça va. Tu sais, c'est voilà. Hein. Si personne ne fait un pas vers l'autre, tu vois, c'est un peu comme une ceinture. Hein. Si pour attacher ta ceinture, faut que. Ah bon.
Ouais. Tentative de métaphore avortée en cours de route. Ouais, non, moi j'ai mis qu'il y avait deux plans en fait sur cette gestion. Il y a la gestion sportive, la gestion du GM, comme tu l'as dit, Ben, qui veut pas brader Ben Simmons. Alors effectivement, des fois il va un peu loin. Bon, on connaît Daryl Morey sur ce qu'il demande, mais il a pas envie de paniquer, de le céder pour ce qu'il estime être plus faible que sa valeur. Et ça, il y a à peu près rien à dire. Il fait son taf. La gestion humaine, elle est plus problématique. On n'a pas toutes les cartes, effectivement.
Déplorable.
On n'a pas toutes les cartes, donc c'est difficile de juger, mais effectivement, on semblerait. Qu'on soit à un point mort, et c'est difficile de voir une issue à court terme, en tout cas. Mais c'est une vraie problématique. C'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais c'est quand même fou. C'est une, comme tu l'as dit, ça part quoi ? D'une élimination, d'une déclin en conf de presse derrière où il est pointé du doigt Ben Simmons et on le revoit plus. C'est quand même tout autre chose que le cas Kyrie Irving qui est au dehors du basket. Quoi.
Rappelons quand même que mettons une petite petit point Doc Rivers qui a quand même déclaré récemment. Hein, je l'ai noté celle-ci. Oula, traduction simultanée, j'ai oublié de traduire ça. Je n'en parle pas du tout. Je coach l'équipe et les mecs que je vois tous les jours, je laisse Daryl et Elton Brand s'occuper de tous les autres trucs. Donc le mec est vraiment en termes de communication, il s'agirait d'augmenter d'un niveau parce que il a quand même dans des dernières conférences de presse, il met des pics indirects et c'est
manque
difficile,
de sagesse
quoi.
Et de recul, hein, Philadelphie.
Alors que il a été engagé un peu pour ça. Mais bref.
Mais bon, ils s'en sortent sportivement grâce à un Maxi qui fait une très belle saison. Salut Alan d'Envergure, qui est un grand fan de Tyrese Maxi. On va enchaîner avec une autre équipe qui avait de forts espoirs la saison dernière, qui a fait les playoffs à l'Est également.
Une équipe qu'Alan d'Envergure aime beaucoup aussi, d'ailleurs, les Knicks.
Alors, question de Maxime PQ. Bonsoir les gars, que pensez-vous du début de saison ? Des Knicks assez chaotiques, selon lui, je le cite. Que pensez-vous du début de saison des Français aussi également ? Certains n'ont pas l'impact attendu en début de saison, à mon avis. Alors commençons par les Knicks.
Pourquoi tu souris, Adrien ?
Alors pourquoi je souris ? Parce que. Oui, non, mais soyons honnêtes. Non, mais parce qu'effectivement, on l'a dit tout au long de la saison dernière, tu l'as évoqué, Tom, tout à l'heure, il y avait un peu un espèce de trompe-l'œil sur la saison dernière des Knicks. Déjà sur cette défense, qui était statistiquement. Ça a tenu toute la saison, comme tu l'as dit, les équipes en face shootaient mal alors qu'ils avaient les shoots ouverts. On pensait que ça allait s'écrouler, ça ne s'est pas écroulé, tant mieux pour eux. Ils ont pu faire les runs en play-off, ils ont trouvé leurs limites. Bon. De l'autre côté, offensivement, certains joueurs ont fait la saison de leur carrière. Je pense notamment à Julius Randle, qui a joué à un niveau très très haut. Alors je peux comprendre que certains estiment que du coup c'était une progression et qu'il allait garder ce niveau-là. Manifestement, sur ce début de saison, on se rend compte que oui, il a progressé quand même. Julius Randle n'est pas horrible, mais il rentre dans des standards plus proche de ce qu'on lui connaissait, notamment au tir à 3 points. Et on retrouve du coup quelque chose de plus attendu. Et je souris parce qu'en début de saison, il y avait beaucoup de hype du côté de New York, qu'ils aimaient aussi nous charrier parce qu'il y a beaucoup de hype du côté des Bulls. Et personnellement, j'avais des doutes sur cet effectif, sur les moves qui avaient été faits à l'intersaison, les pièces qui ont été rajoutées. Et voilà, comme c'est dit dans la question, il y a des gens qui coincent en ce début de saison. On voit que malheureusement, pour des raisons un peu obscures, Kemba Walker est écarté de la rotation, parce que ça ne semble pas être que basket, même s'il y a des soucis basket. Hein. Alan l'a rappelé le podcast dernier, la semaine dernière, le 5 des Knicks, ouais. 5 qui joue le plus, et c'est le plus-minus, le net rating le plus horrible de la ligue. Donc il y a un vrai souci sportivement. Après, voilà, on ne va pas se réjouir ad vitam aeternam d'une défaite des Knicks, mais le fait est que là où je suis content, c'est comme tu l'as dit, on fait des prévisions en début de saison, on se trompe souvent, on ne manque pas de nous le rappeler. Je suis content d'avoir eu raison.
Bah en fait, les Knicks, ils illustrent à quel point parier sur la défense, ça marche que quand t'as des mecs élites dans la défense. C'est-à-dire que parier sur la défense d'année en année, quand soit t'as pas un schéma incroyable, soit tu paries uniquement sur la capacité qu'auront tes adversaires à rater encore des shoots, c'est difficile. Tu peux penser que le Jazz aura une bonne défense d'année en année parce qu'en fait, ils ont Rudy Gobert. Tu peux penser que les Bucks auront une bonne défense d'année en année parce qu'ils ont Giannis Antetokounmpo. Tu n'as pas ce joueur transcendant du côté des Knicks, ce qui fait que là, défensivement, quand tu as essayé de mettre un peu plus le curseur sur l'attaque avec ton intersaison, bah, ça flanche. Et oui, il y a trop de mecs qui avaient réalisé la saison de leur carrière. Il y a beaucoup trop de joueurs qui avaient réalisé la saison de leur carrière. Après, petite alerte, RJ Barrett quand même, qui est pas incroyable quand même. Donc là où tu peux te dire, bon, sur des joueurs qui sont déjà peut-être arrivés à maturité, ok, sur un joueur qui quand même est censé être une des bases de ton projet, il y a plus d'inquiétude à avoir.
Tom, je t'en prie, ton avis sur Enix ?
Bah ouais, c'est ça, c'est après c'est les ligues qui sont un peu portées par leur banc aujourd'hui. Et du coup leur banc avec Derrick Rose, Quickly, même Topin qui a quelques minutes, donc qui arrivent à s'en sortir avec les bons. Moi les Knicks c'est une équipe que j'ai très peu vue sur les deux dernières semaines. Je les regardais pas mal au début de saison où ils étaient à 5-1, tu vois, ils étaient vraiment bien repartis. Mais on sentait déjà qu'il y avait des choses qui étaient anormales, par exemple avec Kemba Walker qui était totalement incandescent à 3 points, qui aujourd'hui qui est sorti littéralement de la rotation, comme tu l'as dit. Enfin, les Knicks c'est bizarre. En fait, parce que il y a deux choses que je vois avec les Knicks, c'est encore une fois la notion de comment dire. C'est pas parce que tu as les mêmes joueurs, c'est pas parce que les joueurs ont le même nom derrière le maillot que ce sont les mêmes en fait. Et ce que, comme Ben l'a dit, il y a pas mal de ces joueurs-là qui ont fait la saison de leur vie. Et ce que tu pensais avoir aujourd'hui quand ils sont sur le terrain, ben, ce sont des choses que tu n'as plus. Et par exemple, Julius Randle, on parlait beaucoup de sa progression à 3 points l'an dernier, mais il était totalement incandescent à mi-distance aussi. Oui. Et aujourd'hui, son shoot à mi-distance l'a totalement lâché. C'est un joueur qui est comparé à ses saisons d'avant, hein, en dehors de sa saison dernière, qui est devenu un joueur de jumper. Moi, ça me choque, en fait. Il shoot. Non, mais c'est quelque chose qui me perturbe. Je le voyais un petit peu plus. En fait, t'as l'impression qu'aujourd'hui, il est vraiment à l'aise à l'idée de prendre des jump shots. Alors que, à la base, c'est pas forcément son skill set. Et ça se ressent après autour de lui et dans la diffusion du jeu. Et puis la deuxième chose avec les Knicks, on l'avait dit un peu lors des previews, c'est la notion de l'inflation. Alors oui, toi t'as augmenté ton talent, sauf que autour de toi toutes les équipes ont augmenté leur talent. Donc au final, ce que tu pouvais faire, bah tu peux plus parce que les autres ont progressé plus vite que toi.
Ouais, totalement. Je vois pas grand chose à ajouter, hein. Même si je veux nuancer, parce qu'après les fans des Knicks ils vont m'embêter. Moi j'aime bien Derrick Rose, j'aime bien votre coach et j'aime bien Tash Gibson. Donc, donc tout va bien. Mais parlons aussi des Français. Attends, vas-y, je t'en prie, Ben. C'est un truc à rajouter.
Non, je pense juste, tu vois, ils avaient, je pense, Tom, anticipé que les saisons étaient historiques pour beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que quand tu prends, je sais pas, en termes de notes 2K, leur effectif il est meilleur cette année. Parce qu'en fait, ils ont quand même fourni, etc. Le truc, c'est, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé la violence de la chute pour certains. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que Randle allait revenir sur Terre. Là, il revient bien sur Terre, mais bien comme il faut. Hein, l'atterrissage est violent. RJ Barrett, là où tu pouvais te dire qu'il y aurait eu une progression parce que lui était jeune, il n'y en a pas vraiment. Donc, je pense qu'en fait, le calcul était bon de leur côté. Je tape dans mon micro, c'est pas du tout radiophonique, mais j'espère que ça s'entendra pas. Mais je pense que ça avait été anticipé, mais le retour sur Terre est assez violent, quoi.
Il y a le retour sur Terre anticipé par le front office et il y a les joueurs. Que tu disais, Tom, sur Randle, il y a aussi ce truc, il dit... Ça s'est marché, peut-être qu'aussi, il y en a certains qui sont vus aussi plus beaux que ce qu'ils sont vraiment capables de produire sur la longueur d'une saison et sur cette saison-ci. Donc ça va être compliqué. Il y avait une deuxième partie à la question, c'est là-dessus que je voulais vous emmener, qui parle des Français. Parle donc, j'imagine notamment d'Evan Fournier, début de saison des Français de manière globale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
On l'a tout le temps tapé dessus, donc Frank Ntilikina qui est dans une rotation et qui a un rôle. Voilà, c'est bien.
C'est une bonne surprise. Après, on peut être quand même un peu déçu, tu vois, Kylian Hayes.
C'est dur.
C'est dommage. C'est dommage. Malédon aussi, c'est dommage. Après les patrons restent les patrons, hein. Rudy Gobert, encore une fois, des valeurs sûres, hein. Evan Fournier. Alors oui, Evan Fournier, c'est un peu bizarre parce qu'il joue très peu de quatrième carton.
Et après, il fait du Evan Fournier.
C'est un peu bizarre, mais bon, ça reste un titulaire solide à NBA, quoi. Après, les autres...
Bah, Nicolas Batum, enfin, un peu blessé, donc...
Un peu blessé, tu vois, même de l'autre côté, tu vois, Tidy, il joue pas tant que ça. Enfin, il a joué récemment, mais il joue pas tant que ça.
J'attendais à ce que tu le cites.
Voilà. Voilà, c'est ça le truc. En fait, le rôle, les rôles des Français sont difficiles. En fait, ils ont pas de rôle forcément très établi. Enfin, quand tu compares, par exemple, aux Canadiens qui a un NBA, je trouve que t'as plus de joueurs canadiens établis que de joueurs français aujourd'hui.
Oui.
Même si les meilleurs français sont meilleurs que les meilleurs canadiens, mais t'as quand même, tu vois, il y a quand même un gap.
Bah, c'est-à-dire que là, il y a un énorme gap entre ceux qui ont des responsabilités, puis un peu les jeunes qui essayent encore de prouver, tu vois. Enfin, il y a un océan à l'heure actuelle et c'est ça qui peut être un peu compliqué. Après, je savais pas qu'il y avait une rivalité Canada-France. Comme à la grande époque du général.
C'est les étrangers les plus nombreux en NBA, il me semble.
Ouais,
oui,
c'est ça.
C'est ça. C'est le deuxième contingent.
Proportionnellement, ils sont plus, enfin, ils ont plus de responsabilités. Shai, Jamal Murray, etc. Enfin, quand même.
Il y a une transition au niveau des Français générationnellement, on va dire, enfin, de demi-génération, parce qu'il y avait la génération Parker, Dio, Pietrus, etc., qui est passée à Batum, Gobert, Evan. Et là, effectivement, pour la nouvelle qui arrive, c'est un peu compliqué. Après, tu as évoqué Killian Hayes. Il a encore un peu une chance parce qu'à Détroit, tu vas encore avoir des minutes. Donc, on peut toujours espérer. C'était compliqué. On sait que les dernières saisons pour les jeunes joueurs, etc. Mais ça va être... c'est vrai que cette nouvelle génération a encore un peu de mal à s'imposer, à trouver sa place sur la durée. Parce que Malédon, il a joué l'année dernière. Mais là, cette année, c'est compliqué. Bon, après, il y a le fameux espoir Victor. Mais ça, on verra.
Puis, ils ne sont pas arrivés au bon moment, en fait. Ils sont arrivés... tu vois, il y a eu un moment où il y en a eu beaucoup qui sont arrivés année tronquée, bulle, année dernière bizarre. Enfin, les conditions sont pas parfaites.
Oui. Puis en plus, quand tu arrives à Détroit, excuse-moi Elias, mais à ce moment-là pour Killian Hayes, c'était vraiment pas l'environnement le plus simple non plus quoi. Il y a selon l'endroit où tu tombes, parce qu'on en parle souvent, et c'est pas pour le discréditer de Tony Parker qui tombe parfaitement aux Spurs. Voilà, ça joue aussi dans ton début de carrière quand t'es un étranger, quand tu viens de l'Europe. Il y a toujours ces petites bascules à faire pour vraiment t'imposer dans une rotation sur la durée. Et c'est là le cap le plus dur. Jouer au tout début, ça va à peu près. Voilà, Frankie Kila, Malédon, Killian Hayes. C'est le cap d'après là, qui est compliqué pour l'instant pour cette génération.
C'est jouer pas uniquement parce que tu es jeune et qu'on te prête du potentiel, mais parce que tu es bon.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est que tu as l'impression que ce sont des joueurs qui, aujourd'hui, tu n'es pas sûr qu'ils auront un deuxième contrat NBA. Et c'est quelque chose que t'avais pas, tu vois, à l'époque des Batum, Gobert, même Fournier, tu vois, c'était après leur troisième saison, tu savais que ces joueurs-là auraient eu un avenir en NBA, quoi. Alors que là, tu te poses déjà des questions sur le deuxième
point. On revient un peu sur le profil de la génération encore d'avant. On n'était pas sûr de qui allait pouvoir vraiment faire son trou en NBA du côté des joueurs français. Mais enfin, on souhaite que ça s'améliore. Encore quelques... Oh, alors on va faire une belle heure et demie de podcast, ça va nous faire plaisir. Encore deux petites questions. Enfin, deux petites. Encore une belle question là qui arrive de Coignard Alex. Il dit salut à toute l'équipe, donc salut à toi déjà. Je suis agacé par les joueurs premium et juste en dessous. Je ne parle pas des superstars. Préparez-vous. Qui avait un gros contrat et qui se libère de celui-ci pour signer au minimum chez un favori pour le titre? Passer de 20 millions à une poignée de figues l'année suivante. Concurrence déloyale pour les franchises qui se construisent en suivant les règles du salary cap. Cela dérègle le marché. De plus, ce tour de passe-passe se fait en douce entre potes. Hashtag LeBron, on voit qui est ciblé. Injuste ou c'est la loi de la jungle? Alors, je sais qu'on l'évoque souvent. Je sais que cette question, pour nous, elle est un peu biaisée. Ben, je t'en prie, commence. Je vois que tu as envie de parler.
Ouais, tu t'as pas donné à Tom parce que Tom, il a fait des mouvements de désespération qui sont quand même rarement vus de la part de Tom.
Je le laisse digérer pour arriver derrière. Alors que toi, je sais que tu es préparé.
C'est pas... Injuste ou la loi de la jungle, déjà, je vois deux possibilités négatives.
C'est vrai que ça laisse pas beaucoup de portes de sortie.
Non, mais alors d'abord, je pense qu'on a, je pensais qu'on avait réglé ce cas-là l'année dernière quand il y avait eu beaucoup de cris, de réactions quand certains joueurs à gros contrat avaient décidé de se libérer. Alors déjà,
Ils n'ont pas décidé vraiment.
Partons du début. Quand ils se libèrent, c'est une rupture conventionnelle, si on va s'appliquer ça au droit français. Donc, globalement, c'est pas le mec qui dit, bon, bah, allez, je pars, salut, il fait meilleur à Miami. C'est plutôt qu'en fait, il y a un accord entre la franchise et le joueur. C'est pour ça que Kevin Love est toujours à Cleveland, par exemple. Prenons le cas classique. Ensuite, ce sont pas des joueurs qui sont en dessous du niveau de superstar. C'est des joueurs qui sont plusieurs crans en dessous de ça. Dede Drummond, c'est bien ce qu'il fait du côté des Sixers, mais son impact sur la campagne de playoff des Lakers a été proche du néant, je pense. La Marcus Aldridge, il y a eu cette blessure qui était malheureuse, mais ça reste un joueur qui aura quand même un rôle assez limité. Il ne crée pas de différence majeure. Et il ne le crée pas de différence majeure. Ça peut être prouvé pourquoi. Je peux vous dire que, encore une fois, le CBA est voté et c'est un accord collectif. Si les différences étaient si majeures que ça, c'est bien longtemps que ça aurait été adressé. Donc, en fait, c'est symboliquement, c'est très fort. En termes d'impact, c'est très limité, quoi. Je trouve ça très limité. Après, vis-à-vis de LeBron, c'est des mecs qui veulent jouer ensemble. Je pense qu'on peut pas leur en vouloir, en fait. Enfin, Carmelo Anthony, désolé Adrien, il n'y a personne qui lui donne 10 millions à l'heure actuelle.
Aucun souci.
Donc,
oui, non, mais tu l'as dit, il y a cette impression, les noms sont ronflants, donc ça donne cette impression. Il y a quelques rares exceptions qui font qu'on se focalise dessus. Ben, par exemple, on évoquait Griffin là tout à l'heure. Bon, il se trouve que pendant un temps, il a été bien meilleur que ce qu'on pouvait attendre à ce moment-là. Donc on se dit, ah, ça peut être injuste, mais dans la majorité des cas, comme tu as dit, niveau terrain, l'impact, il n'est pas. L'injustice n'est pas incroyable, n'est-ce pas, Tom?
Bah, surtout que les joueurs laissent de l'argent sur la table, hein. On dit, c'est pas genre ciao, vous me payez tout mon salaire et moi je vais jouer au minimum. Non, ils laissent de l'argent sur la table et puis les franchises sont ok pour se séparer des joueurs pour faire de la place entre guillemets aux jeunes, pour ne pas avoir un vétéran qui pourrit entre guillemets l'ambiance du vestiaire, qui peut c'est un accord à la mienne. Moi je trouve pas que on devrait bien expliqué.
Ouais. Non mais après c'est le jeu. Non mais là où je suis d'accord, c'est que c'est le jeu, c'est qu'il y a un moment donné, les GM dans d'autres cas, parce qu'il n'y a pas que ces cas-là, t'es très content d'avoir un joueur qui accepte de signer pour moins cher chez toi. Pas forcément pour le minimum vétéran, etc. C'est le jeu, c'est comme ça que ouais. Ça fonctionne. C'est une négociation entre là où le joueur a envie de jouer, combien on lui propose, sur combien de temps. C'est-à-dire que c'est le principe de tous les contrats en NBA en fait finalement.
Oui, c'est le package. Mais après tu vois, enfin si on revient sur le côté LeBron. Quel joueur au minimum signé par les Lakers, s'il est coupé aujourd'hui, une équipe coupe un joueur pour le récupérer?
Alors, Carmelo Anthony. Mec qui est minimum... oui, Carmelo Anthony, moi je le signe. Non, mais je sais pas, effectivement, il n'y a peu de joueurs qui viennent en tête. En tout cas, ça ne vient pas immédiatement et c'est bien la preuve que c'est pas. Après, c'est peut-être pas les Lakers de cette année qui sont l'exemple le plus incroyable de ça. Il aurait pu citer les Warriors d'il y a quelques temps qui récupéraient des.
David West,
voilà, c'est ça, c'est l'exemple
oui,
que j'ai en tête.
Oui, oui, mais ça c'est le choix du joueur. C'est vrai que ça peut faire partie des choses. Mais encore une fois, voilà, c'est David West au moment où il signe, il a 35 ans. Enfin, c'est pas non plus voilà les.
Non, mais c'est le jeu.
Ces joueurs-là, au bout d'un moment, ce sont pas des starters sur 82 matchs. Et ce sont pas forcément des starters en playoff non plus. Ça va être des joueurs qui vont te gagner peut-être un match en playoff, mais pas beaucoup plus.
C'est le bon scénario. Après, je pense que cette question, elle est tellement mise en avant parce que chez les fans, enfin, les fans NBA, c'est Karl Popper. Enfin, les mecs, c'est l'égalitarisme poussé à l'extrême. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Sauf qu'en fait, ça, c'est un trompe-l'œil. On n'y est pas de base. On n'y est pas. Donc, en fait, ça peut paraître déloyal, mais je rappelle que on avait sorti cette stat par rapport au buyout. L'équipe qui a récupéré le plus de buyout sur les 7 ou 8 dernières années, c'est Milwaukee. Donc, les Bucks, ils récupèrent des mecs en buyout. Donc, il faut, je pense, il faut ça. Pensez à d'autres trucs plus importants en NBA que ça.
Le prends pas personnellement, Alex, celui qui a posé la question.
Pas du tout, mais pauvre Alex, quand j'ai vu la question et que je l'ai préparée, j'ai fait mince, Alex, il va penser que c'est contre lui. Mais non, c'est juste que cette question-là, en fait, dès qu'on fait une FAQ, je crois qu'on l'a.
Oui, mais parce que, comme tu l'as dit, l'image est impactante et on a aussi du mal. Et tu vois, tu parlais du cas Carmelo Anthony. Pour moi, il y a des moments où, des fois, on a du mal à se détacher de l'image qu'on avait du joueur qu'on a vu et à se dire, bon, il a plus ce niveau-là. Et à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Les joueurs, s'ils sont coupés par une équipe, c'est que l'équipe décidait que c'était aussi un bénéfice pour eux. C'est le jeu, c'est l'écosystème NBA. si ça posait problème, comme tu l'as très bien dit, Ben, je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure, il y aurait renégociation.
Oui.
Alors, bah pour finir, justement, parler de Carmelo Anthony, de mon attrait pour Carmelo Anthony, on va plutôt parler maintenant d'équipe pour la dernière question qui est plus légère. Une question qui nous est posée par Raph Touquet qui nous demande pourquoi on est fan de vos propres équipes si on est fan d'une équipe. Alors, écoutez, Tom, pourquoi les Grizzlies ?
Bah, je crois que j'avais déjà expliqué dans des podcasts, mais pour la refaire, moi, je suis un grand fan de Brandon Roy. Probablement le joueur préféré que j'ai pu voir jouer. Enfin, c'est mon joueur préféré personnellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2011, il se blesse gravement. Enfin, c'est sa dernière série de playoffs face aux Mavs. Et entre-temps, ben, je découvre les Grizzlies, le Golden Grain, et du coup, comme il n'y a pas de joueur qui m'a fait vibrer un peu comme Brandon Roy, ben, j'ai switché sur les Grizzlies parce que le jeu me plaisait à l'époque et du coup, c'est resté.
C'est resté. Alors Ben, quand on ne reste pas sur une équipe, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi?
Alors, il y a cette légende urbaine comme quoi j'aurais été un fan d'Orlando, mais ça, il faut tout de suite arrêter ça. Non, en fait, moi, c'est très simple. Je suis pour personne parce que à l'époque où j'ai créé le site et le podcast, de base, j'avais l'objectif qui s'est depuis évanoui d'être journaliste sportif. Donc, en fait, j'étais dans une notion d'impartialité. Hein. On revient encore à cette différence entre l'objectivité et l'impartialité. J'ai décidé d'être pour personne. Est-ce que ça veut pas dire que j'ai des appétences pour certaines franchises? Si, mais en fait, de base, il y a personne. En gros, quand il y a le titre NBA, que ça soit équipe X ou équipe X, ça me... Et contrairement à ce que disent toutes les personnes, SO Madian, parce qu'on doit se défendre toujours quand on est pour personne, on peut vibrer même si on est pour personne. Hein, ça, arrêtons avec ça, parce que malheureusement, chers auditeurs, j'ai pas l'impression que vos équipes gagnent tous les titres. Donc, vous vibrez quand même.
Ah, c'est la réponse d'esthète du sport. On apprécie le basket pour ce qu'il est, peu importe.
Mais après, les gars, dans tous les autres sports, je suis pour quelqu'un. Mais là, le basket, j'essaye de prendre un pas de recul.
Qui est en plus une ligue américaine. C'est vrai qu'il y a aussi de ça qui paraît toujours un peu bizarre. C'est parce que, bon, généralement, en football, pour prendre le sport majeur, on est souvent fan de l'équipe de la ville, soit où on a grandi, soit où il y a une appétence particulière. Enfin, il y a un attachement plus proche. NBA, c'est un peu différent. Donc, pour répondre à la question de mon côté... Moi, c'est très simple, je suis fan des Bulls, j'ai grandi dans les années 90, j'ai commencé le basket dans les années 90. Tous les magazines auxquels j'étais abonné, il y avait les Bulls en gros. Voilà. Alors après, on a suivi un peu, mais de plus loin, la période Ben Gordon, Jamal Crawford, on en parlait, Jalen Rose, avec Eddie Curry, tout ce genre de joueurs. Et on est revenu plus fort avec Rose et Noah, parce que je pense que c'est ça aussi, donc la période d'Eric Rose. Et au-dessus de ça, c'est que dans les moments où tu es moins fan d'une équipe, et des fois fan d'une équipe sur une période donnée, pas forcément d'une franchise. Il y a un style de jeu, tu l'évoquais Tom, une espèce de philosophie qui te plaît, les joueurs qui peuvent être plaisants. Et après, moi je comprends aussi qu'on puisse changer à droite à gauche. Les périodes plus basses des Bulls, je regardais moins, j'étais moins le grand supporter parce que j'habite pas à Chicago non plus. Mais la continuité, moi, me plaît aussi. C'est ça aussi d'être qui me fait aussi un peu vibrer, c'est d'être là quand c'est mal. Ben, on est là, on est entre nous, on se serre les coudes, et puis quand ça gagne, du coup, c'est d'autant plus. Ça crée encore d'autres émotions, même si je comprends ce que tu dis, Ben. C'est encore plus. Là, si on doit regagner après c'est des années de galère, moi, ce serait un fort sentiment. Même si, du coup, on n'a plus gagné depuis que j'étais tout gamin.
Mais être fan d'une équipe ne t'empêche pas de regarder les matchs des autres équipes et de les apprécier.
Ah, tout à fait. Mais pendant un match, on peut même avoir un biais. Moi, je sais que des fois, je regarde même des sports que je ne suis pas d'habitude ou des matchs où j'ai deux équipes où je m'en fous sur un match de foot de Bundesliga, j'en sais rien. Et durant le match. Et ben, y a une équipe, je sais pas pourquoi, je me prends pour une et je me dis tiens, je vais être pour eux sur ce match-là, ça arrive.
C'est l'effet Paris.
Après, moi, je trouve ça, c'est vrai ça c'est trop vrai, Tom. Ou Fantasy League. moi, après, je trouve ça juste difficile. Enfin, sachant que dans d'autres sports, je peux comparer, parce que sachant que je suis dans d'autres sports, je suis fan. C'est difficile quand ton équipe est en jeu, je trouve, à un moment d'avoir le recul. Il y a un moment où tu peux plus l'avoir. Enfin, genre, j'ai du mal dans une situation en match. Deux jours après, ça va. Dans une situation en match, heureusement qu'on fait pas des. Enfin non, c'est pas de l'NBA, mais heureusement qu'on fait pas des lives sur certains matchs de mes équipes. Parce qu'en fait, je trouve que moi, je suis fasciné par les comptes FR, etc. Ceux qui arrivent à avoir du recul in situ. Je trouve ça incroyable.
Ah oui, moi je ferme des onglets des fois. De ces dernières années, j'ai fermé des onglets Chicago. Hein. C'est arrivé en disant oh, allez, c'est bon, je vais aller voir une autre équipe comme ça, je suis tranquille.
Ouais, donc c'est bien. Après, décidément, ça va être très long. J'adore l'idée de, on est tombé amoureux d'une équipe pour ce qu'elle propose. Moi, je sais qu'en football américain, je suis tombé amoureux de l'équipe que je supporte grâce au jeu qu'elle proposait. Et j'ai eu une espèce de crise identitaire quand, en ce moment, elle commence à avoir un autre style de jeu. Vu qu'elle gagne, et vu que je suis vraiment un être humain déplorable, je vais continuer à les supporter. Mais, en fait, ouais, quand, je trouve que, ouais, tu t'identifies toujours à ce que propose l'équipe, ouais, vu qu'on n'est pas aux États-Unis.
Ouais. Voilà, comme tu l'as dit, Ben, je pense qu'on a fait assez long. C'est un épisode FAQ, donc c'est permis. Voilà, un podcast d'une bonne heure et demie. On a bien discuté. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir posé toutes ces questions. C'est toujours sympa de voir de quoi vous aimez qu'on puisse parler, qu'on réponde à vos questions. On en refera régulièrement, bien sûr. On va retourner peut-être à des sujets plus nuckembdiens pour les prochaines semaines. Dans tous les cas, donc merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les plateformes de podcast où vous nous avez écoutés, par exemple Spotify, dans le fameux Spotify Wrapped également. On remercie tous ceux qui nous ont tagués, mais aussi ceux qui nous écoutent sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, les petites étoiles qui font toujours plaisir, n'est-ce pas Ben ? Et évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour nous poser des questions, par exemple, sur YouTube également. Twitter, vous pouvez échanger avec nos chers community managers qui font un très beau boulot. Les vendredis, régulièrement aussi, on a mis en place des Space Twitter. Donc n'hésitez pas à venir discuter, à prendre la parole. Cette fois-ci, on ne fait pas que vous répondre, vous pouvez vous-même donner votre avis. Donc surveillez le compte Dunkebdo sur Twitter. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, messieurs.
Merci, Adrien.
Salut.
Merci
salut.
À toi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.